Bienvenue dans l'Europe de Soccer, 21h02, on est ensemble pour 2 heures pour faire un petit peu tout ce qui s'est passé en Europe cette semaine, et Dieu sait qu'il s'est passé des choses avec les grosses affaires en Espagne, en Italie, l'Angleterre est donc aussi bien évidemment concernée. On aura Pierrot pour le Portugal, un programme qui va s'organiser comme ça, avec en premier Italie, avec mon cher Billy qui est présent.
Bonsoir à tous.
Espagne qui se verra présentée par mes très chers amis Anne et Marfolo.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Un mauvais garçon. Ah si, c'est bon, il dit pas. Pierrot sera là pour nous parler de sa Liga, sa Grèce.
Bonsoir à tous.
Et Valentin et Lee qui sont un peu les deux... Les deux bonnes mères, j'aime bien reprendre l'expression de Billy, les deux polyvalences de l'émission. Lee qui est un petit peu plus penché sur la première ligue qu'on abordera en fin d'émission. Bonsoir messieurs.
Salut à tous. Bonsoir.
Donc sans plus tarder, on va tout de suite prendre la direction de l'Italie avec toi Billy. Avec déjà, tu vas nous faire un petit compte-rendu de ce qui a pu se passer cette semaine et on reviendra un petit peu plus sur tous les sujets en profondeur après. Je te laisse la main pour nous résumer un petit peu ce dont on va approfondir avec toi dans quelques minutes.
Ouais, merci Arnaud. On va revenir rapidement sur, bien qu'on soit revenu dessus dimanche soir, hein, sur ce qui s'est passé en championnat ce week-end. Très rapidement, et on va surtout parler du match en retard de la Roma mercredi contre la Sampdoria. Il y avait de la Coupe d'Italie aussi, la fin des huitièmes de finale, et puis bien sûr le marché des transferts qui s'agite enfin cette semaine, presque deux semaines après son ouverture, notamment le départ de Pazzini à la Sampdoria, et puis du côté du Milan, où malgré les déclarations de Galliani il y a 3 jours qui dirait que rien ne se ferait, Milan a déjà recruté un joueur, peut-être un deuxième, et surtout, on cédera peut-être un.
Exactement, c'est ça. Bon, oui, tu as parfaitement résumé un petit peu ce qu'on avait vu qui s'était passé chez nos amis italiens. Donc, on va commencer déjà par cette 18e journée de championnat, un peu de reprise, qui a vu, et arrête-moi si je me trompe, pas d'énormes surprises. Le seul vraiment fait marquant à retenir, et je pense que c'est là-dessus où on va un peu approfondir, c'est l'Inter qui marque un petit peu le pas dès la reprise, avec par contre une Juve qui arrive à gagner sans la manière, mais qui gagne quand même avec l'efficacité de Del Piero.
Ouais, c'est ça. Bon, on en a déjà parlé dimanche soir, mais c'est la chose à retenir du week-end en Italie, c'est que l'Inter perd 2 points, nul à domicile contre Cagliari, un but partout, avec surtout un Cagliari qui pouvait l'emporter tout simplement. Puis la Juve qui, dans l'après-midi, le dimanche, s'impose 1-0 sur, grâce à un coup franc de Del Piero, le seul but du match, le 36e coup franc de sa carrière sous le maillot de la Juve, et voilà. Ouais. Et son 15e en Serie A, je crois. Il y avait des statistiques intéressantes sur les tireurs de coup franc.
Ouais. Quand on voit qu'on peut s'extasier en France sur du Juninho.
Si, je vais les retrouver plus tard, les stats complètes. Et puis, mais Juninho...
oui,
c'est top. Il a même encore de meilleures stats. Hein, et puis, je pense que Del Piero est le premier à le dire. Même Pirlo le dit de toute façon, Juninho est le meilleur tireur de coup franc. Ça, c'est clair, il n'y a aucun souci. Mais Del Piero, en ce moment, c'est déjà son 6e, en fait, cette saison. Et il a déjà battu son record, hein, qui était de 5 ans.
Et puis, à chaque fois, ses buts ou ses coups francs sont vraiment, vraiment décisifs. Et c'est ça qui fait la particulière de la Juve, qui est vraiment, en fait, qui arrive à être efficace et surtout impressionnante par sa force collective. Il n'y a pas un joueur qui va vraiment se détacher, même si les Amaori et Del Piero sont, on va dire, au-dessus du lot en ce début de saison. Cette première partie de saison même, il n'y a pas vraiment de joueur qui s'est détaché comme à l'Inter Zlatan, par exemple.
Ah, ouais.
La Juve est vraiment complète partout, c'est ça qui est impressionnant.
Ouais, est-ce que Marv a quelque chose à dire? Je sens un peu irrité là.
Non, c'est juste une boutade quoi. C'est un peu comme ce qu'on avait dit pour Maicon ou Alves quoi. C'est qu'on préfère Juninho ou Del Piero, c'est pareil quoi. Juste que j'étais pas d'accord dans le fond, mais
Ouais, bien sûr.
Non mais
c'est comme ce qu'on avait dit, donc le choix qu'on avait parlé pour le meilleur arrière droit, c'est une histoire de goût quoi, mais y a pas de souci.
Oui. Pour revenir à ce que disait l'ami Arnaud là, c'est bien sûr là, c'est là, historiquement tout est respecté avec la Juve qui reste une équipe excellente et surtout grâce à son abnégation, sa grinta et comme on dit, j'ai déjà répété mais j'aime beaucoup cette expression, une grande équipe mais avec un esprit d'équipe de province, c'est-à-dire qu'il a jamais rien, et ce qui fait souvent la différence. Cela dit, Del Piero est quand même un joueur plus que décisif, et s'il y a bien une individualité à détacher malgré ses 34 ans, c'est bien lui encore parmi cette équipe bianconère. Ouais. Et en plus, c'est un match que la Juve n'a, comme tu dis, n'a pas forcément dominé.
Ranieri elle a dit à la fin du match que, on sait que c'est pas un fataliste, mais il aime bien un petit peu se rabaisser à chaque fois les performances. Il aime pas s'enflammer en tout cas. Et il a dit à la fin du match que le nul aurait été mérité, mais réellement, la Juve n'a pas forcé, mais méritait quand même sa victoire. Mais on veut dire par là que sans la manière, ils gagnent quand même grâce à leur efficacité. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la combativité de l'équipe, je trouve que le symbole qui a été recruté en janvier dernier, donc il y a un an, c'est Sissoko. Je sais pas ce que t'en penses de lui. Marvolo, tu voulais nous réagir sur la Juve, je pense.
Ouais, mais par rapport à ce que disait Billy, est-ce que tu as repris un peu pour cette combativité-là ? Bon, de toute façon, ça fait un peu partie du patrimoine de la Juve, mais Ranieri qui a quand même été très critiqué à ses débuts. Finalement, il se montre très très convaincant parce que je pense que le fait qu'il passe son temps à dire que c'était des matchs difficiles, qu'ils auraient mérité match nul, c'est justement ça qui les booste parce que sans ça, une grosse équipe, elle peut toujours se faire piéger par une plus petite, comme on voit ça dans les coupes. Et puis par rapport à ce que tu disais pour Sissoko, moi ça me surprend moyennement parce que faut pas oublier qu'il avait déjà fait deux trois saisons, c'est peut-être un peu trop, mais il avait eu des très gros moments à Liverpool où il avait été franchement énorme. Donc là ce qu'on voit, c'est plus une confirmation qu'une réelle surprise.
Ouais, t'as un petit avis sur Sissoko qui reprend bien le jeu de la Juve, non, Billy?
Ouais, non, de toute façon, enfin moi c'est un joueur je connaissais pas des masses avant qu'il arrive en Italie, hein, mais c'est vrai qu'il a direct pris les choses en main, et puis il est arrivé une époque l'an passé où la Juve souffrait un peu, quoi, et il manquait clairement quelqu'un au milieu de terrain, et puis voilà, il a réglé tous les soucis, et c'est un joueur extrêmement régulier, hein, qui fait rarement des mauvais matchs, et puis voilà, non, bien sûr, rien à dire, hein, en plus il peut être associé un peu à tout le monde, enfin c'est le seul joueur... Il y a plein de milieux de terrain, la Juve est centraux, quoi. Mais c'est le seul joueur qui est indiscutable. Ranieri le met sur le terrain, puis après il choisit qui l'accompagner, quoi. Qui doit l'accompagner. Je vais continuer là-ci parce que bon, je retrouve pas les stats en fait là de coup franc, c'est dommage, quoi. Et voilà, quoi. Il
35 pour Del Piero exactement. T'as dit 36, il me semble, c'est 35. Mmh. Ouais. Enfin, ouais. Bon, on est à peu près à ce ratio-là. Quoi.
Voilà. Et donc déjà son sixième cette saison, et puis des coups francs comme tu dis. Souvent décisif, et c'est ça le plus important. Et voilà. D'ailleurs, c'était au Chievo-Vérone, tu vois, pareil, un match contre une équipe mal classée il y a deux mois à peu près, bah, c'est lui qui avait ouvert le score sur coup franc. Et voilà, c'est souvent comme ça débloque des situations. C'est ce qui manque notamment au Milan, je dirais, tu vois, genre de truc, quoi, sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, juste... Milan qui a fait un match nul. Oui, vas-y, enchaîne.
Ouais. Non, juste, comme je pense qu'on a. Fait le tour de la question au niveau de la Juve. Je vais revenir un petit peu sur l'homme de cette journée qui est pour moi Pandev avec son triplé avec la Lazio et une équipe Lazio dont on ne parle pas des masses en France. C'est vraiment pas normalement relaté et je trouve qu'ils ont pourtant cette année un superbe effectif avec des prétentions de recrutement qui pourraient être intéressantes. Oui, Alessia.
Il y a Zarate surtout qui flanque Pandev. Pandev met passé 3 buts. C'est Zarate qui provoque, pour la plupart. C'est vraiment un super joueur, une super révélation pour le championnat d'Italie. Maintenant, il va falloir le garder, le joueur, parce qu'on rappelle qu'il est prêté avec une option d'achat de 10 millions, sauf erreur, par le club émirati, je ne sais plus le nom.
Club de là-bas, je ne sais plus.
Un club.
Marvolo, tu sais pas, quoi.
Marvolo.
Bah, moi, c'est ce que je, justement, mon hésitation, c'était par rapport à la clause. Il me semble qu'elle est de 18, mais.
J'avais entendu 10, bon, je sais pas, t'as peut-être raison, j'ai un doute.
10, ça me semble un peu léger parce que justement, il avait recruté pour 11-12 millions quand il était au Vélez Sarsfield. Donc, moi, ça me paraît un peu léger, mais je vous confirme ça. Mais par rapport à ce que t'as dit pour ce week-end-là, ouais, bah, Pandev marque un triplé, mais. Il y a quand même deux buts qui sont vraiment pour Zarate, quoi. C'est évident.
Il provoque, il fait tout, il provoque dans cette équipe, il est un peu partout. C'est lui qui est vraiment un maître à jouer dans cette équipe. Il va un peu partout, il provoque, il offre des buts, il en marque peut-être un peu moins qu'en ce moment qu'en début de saison, ouais. Mais c'est toujours, il a toujours cet impact dans l'avant-dernier geste qui est très important pour la Lazio et qui peut se féliciter d'avoir pu attirer un joueur comme lui durant le mercato d'été. Ouais. C'était une vraie surprise partout pour le championnat d'Italie. Il semble même qu'il a été élu meilleur recrue étrangère de Serie A avec Steiner, ça fait rare, par la Gazzetta. Et c'est vraiment totalement logique quand on voit ce qu'il fait depuis le début de la saison, le joueur.
Arnaud.
Ouais, non, juste pour dire aussi. Que Gabo du forum de Soccers m'a confirmé l'offre qui serait de 20, enfin le transfert possible serait de 21 millions pour Zarate. Ouais, l'option d'achat.
Ouais, comme tu disais.
Ouais, je confirme, c'est 25 millions de dollars, donc c'est ça, c'est 21 millions.
Bon, faut rappeler que Lotito, le président de la Lazio, c'est quand même une vraie pince, donc. Donc voilà, faudra suivre ça. Et ouais, je veux juste revenir sur Alvesa qui disait que Zarate, il marque beaucoup moins. C'est vrai qu'en début de saison, parce qu'il avait, en fait, il avait tout explosé avec 6 buts en 6 journées, je crois. Là, il est seulement à 8 buts. Mais par contre, ça veut rien dire du tout, quoi. Et comme tu dis, là, il pèse toujours autant sur le jeu. Et il doit être pareil dans les premières places, au niveau des passes décisives. Et Pandev avait pas marqué depuis plus de 2 mois, par contre, quoi. Ça, ouais. Je tiens à signaler, voilà, il en a 8 buts, dont un triplé. Et c'est un joueur super inconstant, quoi, qui est fort, qui était passé par l'Inter pour finir sa formation, mais qui est quand même encore très inconstant. Et pour finir sur la Lazio, peut-être après je repasse ma balle. Voilà, c'est une équipe qui fait son bout de chemin, mais c'est tellement dense en haut de tableau cette année qu'en fait voilà, ça passe inaperçu, quoi. Comme tu dis, Arnaud, quoi.
Ouais. Juste aussi pour dire que la Lazio a quand même cette année. Des joueurs qu'elle ne paye pas énormément et Lotito, comme tu dis, qui est un petit peu considéré comme une pince, bon, qui l'est en quelque sorte, va devoir vraiment faire de très gros efforts financiers à la fin de la saison pour garder certains de ses joueurs. Hein. Quand on voit l'option d'achat de Zarate, quand on voit le salaire de Pandev qui est de 1,5 million d'euros, il me semble, en ce moment, un jeune joueur comme lui.
Et dans le contrat courant jusqu'en 2020. Le contrat court jusqu'en 2010 en plus si ouais. Ça fait. Et puis, mais de toute façon, en fait, c'est un des seuls clubs et voilà, et il a là-dessus le passe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a failli perdre Rocky, le capitaine, parce qu'il demandait un peu plus, quoi. Il a dit non, tout le monde est logé à la même enseigne. Et je pense que ça va être difficile de garder certains joueurs, notamment Pandev, qui avait le Bayern dessus.
Ouais.
Mais voilà.
Quoi. Depuis environ un an, le Bayern ils sont dessus pour. D'avoir cet attaquant qui leur manque quand même, puisqu'ils n'ont que deux réels attaquants avec Klose, Tony et Podolski qui devraient partir.
Ouais.
Il y avait Hugo là.
Il y avait Hugo. Oui,
il n'y a pas que Pandev qui peut partir, il y a aussi Zarate, puisque City ils sont beaucoup dessus. Ils le suivent.
Ouais, après, Real aussi, il y en a beaucoup qui sont dessus. Hein.
Ouais, donc ça va être dangereux pour la Lazio l'année prochaine s'ils perdent Pandev et Zarate.
Ouais, c'est vrai. Pandev, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a la particularité d'être macédonien. Il n'y a pas énormément de joueurs dans les championnats, dans les grandes qualités.
Il a la particularité aussi d'être le seul à arborer encore la coupe de cheveux de Jordan Lechkov.
C'est vrai aussi. Assez jeune, comme je disais, il a 25 ans, donc ça reste quand même un joueur qui, compte tenu de son avenir potentiel, va sûrement, comme tu le disais, Billy, demander une augmentation dont on ne sait pas si Lotito l'acceptera. pour finir, on va dire sur la Lazio, un petit commentaire donc de Gabo, fidèle à Dialle, qui nous disait aussi un très bon retour en forme de Maigny. Je sais pas si t'as un petit avis sur lui, parce que en France, on nous en avait fait un petit peu tout un plat. Ça commence à faire un petit peu.
Lazio, donc il n'arrive pas à jouer avec régularité. Et puis Lazio, vraiment s'en dent de scie également. Mais c'est vrai, quand tu es dans un bon joueur, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Après, voilà, moi je trouve que un club comme la Lazio, ça lui convient bien. Il a quand même d'avoir dans les 23-24 ans maintenant, quoi. Et ça me paraît un peu tard pour. Enfin, je vois pas passer d'autres paliers, moi, si tu veux, quoi. Je pense que c'est un joueur qui va stagner dans ce genre de club et pas assez pour prétendre une place en équipe de France, quoi. Et voilà, quoi.
Justement, comme tu parles de paliers, comment tu situerais la Lazio en fin de saison, par exemple? Comment tu pourrais voir une équipe comme la Lazio? Est-ce qu'elle pourrait accrocher une 5e ou 6e place qualificative en UEFA?
Non, honnêtement, moi, je les vois trop irréguliers et beaucoup, beaucoup moins solides que des équipes comme le Genoa ou Napoli ou la Roma qui est seulement à 3 points derrière. Il y a même la Fiorentina. C'est tellement dense de haut. Devant, là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, quoi, que les 8 premiers clubs de la Serie A, c'est les 8 gros hein, cette année, les 8 clubs historiques, quoi.
Ça faisait longtemps d'ailleurs que c'était pas arrivé, et puis que tout soit aussi tenu en quelques... Par les deux devant, on peut dire qu'ils s'échappent un petit peu, mais à partir de la 3e place, ça se tient vraiment. La Roma qui, comme tu disais, est à 4 points du 4e, donc du premier qualifié en Ligue des Champions, donc c'est vrai que ça va être très dense, mais je sais pas.
Parmi ces 8 clubs-là, pour moi, la Lazio, c'est l'équipe qui est la plus faible, en gros, quoi. C'est voilà, ouais, c'est celle, en plus il y a toujours une petite guéguerre entre l'entraîneur Delio Rossi et Lotito, question de contrat, de projet, voilà, pareil, quelques joueurs qui sont pas très bien et tout ça, c'est voilà, et c'est
Lotito assez spécial comme président, assez
ouais, spécial. Ouais.
Mais bon,
très spécial, mais qui a su relancer quand même un club à la dérive, je tiens quand même.
Ouais. C'est vrai, mais bon, il passe pas tout le temps apprécié compte tenu de ses déclarations envers les supporters aussi des fois. Voilà. Il se dit pas soutenu, enfin il se fait un peu passer pour une victime, ça c'est assez spécial.
En fait, la vraie histoire, si je me trompe pas, si tu veux, c'est que historiquement, surtout avec Cragnotti qui était l'entraîneur de la Lazio des années 2000 avec Eriksson et tout, quand on était champion, ils avaient beaucoup d'influence, les supporters. Voilà, on leur laissait faire pas mal de choses et tout, on les finançait même, si tu veux, pour certaines choses. Je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que je connais pas le sujet par cœur. Et Lotito lui est arrivé en 2004, il a dit tout ça c'est fini, les supporters ils se démerdent, déjà il y avait plus de thunes de façon, donc ils pouvaient pas faire autrement. Et voilà, et les supporters, les tifosi italiens, on sait qu'ils aiment bien avoir une influence et même une part de décision limite sur la vie de leur club. Ils ont pas du tout apprécié, du coup, depuis ce temps-là, des rapports voilà, très tendus entre les supporters et le club, malgré les résultats plutôt bons pour de la Lazio, qui est une équipe qu'il faut pas oublier, historiquement, depuis sa création, stagnée en milieu de tableau, voilà, 7e, 8e place, hein, et qui prétendait très rarement au titre de champion d'Italie. Donc à la limite, j'ai envie de dire, par rapport à son standing, elle fait une bonne saison, si tu veux, la Lazio. Là, en fait,
ouais, c'est vrai.
Ça, il faut pas oublier.
C'est vrai, c'est vrai, voilà. C'est sûr. Mais bon, pour rappeler quand même, c'était la Regina en face, hein, ceux qui sont cantonnés pour l'instant à l'avant-dernière place du championnat, qui me font très très peur, les Calabrais. Hein, j'ai un petit peu vu le match contre la Lazio, ça risque d'être très très très.
Il avait ouvert le score en plus. Hein,
c'est dommage, hein, ouais, sur penalty.
La Regina, c'est une équipe qui réussit l'exploit de se sauver chaque année, soir à la fesse. Mais voilà, quoi, alors que c'est toujours la prétendante à la descente. Et puis surtout une année, je pense que tout le monde s'en souvient, ils avaient pris 11 points de pénalité là, après le Calciopoli.
Ouais.
Et ils s'étaient sauvés. Et en fait, sans les points, si tu veux, le classement sans les points, ils finissaient en Coupe de l'UEFA, tu vois. C'était Mazzari, l'actuel entraîneur de la Sampdoria, qui avait été l'instigateur de ce miracle. Mais voilà, bah, c'est une équipe qui chaque année se sauve tout juste, et puis c'est pas temps de les retrouver là. Et s'ils vont en série B, bah, ce serait pas mérité, mais bon, ce serait somme toute logique.
C'est sûr, la Regina. Donc, qui avait ouvert le score. Et si je vous conseille, si vous pouvez revoir le deuxième but de la Lazio avec le show Zarate qui élimine magnifiquement deux ou trois joueurs, il me semble, de la Regina. Et le dernier but de Pandev aussi, une très belle reprise de volée sur une belle ouverture de Zarate. Voilà, pour finir avec ce match-là et dire que la Lazio va ce week-end
recevoir la Juve.
Exactement, qui sera l'autre gros choc de cette journée avec...
À 21h30.
Voilà, avec le Milan-Viola de samedi soir, de demain soir. Donc...
Je vais rappeler aussi le match qui a été rattrapé. On va venir, bon, il n'y a pas eu grand chose à dire. Hein. C'était mercredi. C'était un match de la 9e journée qui a été suspendu parce qu'il y a eu un orage. C'était en fin octobre. C'était Roma-Sampdoria. Et voilà, donc c'est cool. Maintenant, tout le classement est à jour. On y voit vraiment clair. La Roma s'est imposée 2-0 tranquillement. Doublé de Battista, dont un but sur coup franc. Et c'était le retour de Cassano à l'Olimpico. Je crois que ça s'était pas avéré, ou alors peut-être une fois en Coupe d'Italie, mais je suis pas sûr, qui s'est fait siffler copieusement. Ouais. Et voilà, quoi. Et donc, la Roma qui remonte à la 8e place et à 5 points de la Champions League, et qui resserre, bien sûr, le classement,
avec un énorme Batista, et surtout un deuxième but, exceptionnel. Le premier sera un coup franc pas mal, mais le deuxième, ce serait Cristiano Ronaldo qui ferait ça, on en parlerait pendant 3 semaines.
Ah, bah, comme d'habitude. Mais j'ai envie de dire quand même, Batista, je sais pas si Marvolo le suit encore bien, joueur, mais moi je trouve que c'est un joueur qui réussit, mais moyennement. Pour le moment, la Roma, je pense qu'on en attendait quand même plus. Et quand Totti était absent, à part mercredi, il a enfin fait son boulot. Voilà, c'est généralement lui qu'on attendait, c'était surtout Vucinic qu'on retrouvait. Voilà, c'est un joueur, il s'intègre doucement, sûrement peut-être. Mais voilà, je pense que pour le moment, c'est un transfert encore.
C'est lui qui marque quand même dans le derby contre la Lazio.
Ouais, voilà, mais justement, on l'avait plus vu depuis
c'est un intermittent. Ouais. Il est encore trop irrégulier pour vraiment être le joueur l'attaquant pour succéder à Totti et le remplacer durant ses nombreuses blessures à la Roma.
Marvolo?
Ouais, pour Batista, il y a quand même un truc moi qui m'a toujours dérangé, c'est que c'est le genre de joueur à qui on pardonne, on n'en fait passer vraiment aucune, quoi, parce que des joueurs irréguliers, il y en a plein, il y en a même parmi les stars du foot, et pourtant on arrive à oublier ou à passer sous silence, alors que Batista, c'est sûr que c'est pas le même joueur que quand il était au Sevilla, quoi, ça c'est indéniable. Mais ça reste quand même un bon joueur, il fait de bons matchs, et pourtant on parle plus souvent des matchs qu'il foire que des matchs qu'il réussit. C'est je trouve ça un peu dommage, quoi.
Ouais, c'est ce que tu nous faisais un petit peu, ce que tu nous disais un petit peu à la sortie de son passage au Real, hein. C'était un petit peu ce que tu
disais. Ouais, c'est un peu ça, parce que, non, en plus au Real Madrid, il avait été assez bon, dans un poste qui est vraiment pas le sien, parce qu'on le fait trop jouer sur les côtés, alors que c'est plutôt un joueur d'axe. Mais je sais pas, moi, c'est un peu ce que me disait le Vessia, quoi, c'est lui qui marque le but contre la Lazio. Moi, je suis pas sûr que si un Italien avait marqué dans le but de la Lazio, on aurait oublié aussi vite que ça, ce petit exploit, entre guillemets, mais bon.
Surtout sur un match, rappelons-le, où la Lazio avait complètement la Roma avait complètement laissé venir la Lazio, ça avait un petit peu surpris les Laziale qui ne s'attendaient pas du tout à ce schéma de jeu. Et finalement, Batista avait un petit peu créé un petit exploit, comme tu l'avais dit, au vu du match. Donc, il y avait une petite question, justement, comme on est sur la Roma, du forum. Donc, je ne sais pas qui l'a posté, Dan me le rappellera, sur Mexès et son avenir potentiel à la Roma. Toi, déjà, qu'est-ce que t'en penses, Alvesia? Après, je te demanderai, Billy. Philippe Mexès. Ouais,
Mexès, bon, il finira
au vu des déclarations un petit peu de tout ce qu'il a pu faire.
Il finira la saison, mais avec la Roma, mais après, faudra voir pour la saison prochaine. J'ai l'impression que tout d'un coup, la Roma, ça devient un peu moins important dans son cœur et dans sa tête. Que précédemment, et il risquerait vraiment à mon avis de quitter le stade Olimpico et pour venir à Milan comme on en parle beaucoup ces dernières semaines, et surtout mais Milan va devoir sortir l'argent de la poche pour s'acquérir les moyens de Maxès, et encore plus s'ils achètent Kaká avec les 110 millions, ça deviendra encore plus
ça va faire tout remonter, ouais.
Pour le Milan de l'avoir, ça risque de doubler le prix de pas mal de joueurs que le Milan va acheter.
Bah ouais, mais je sais pas, moi Mexès au Milan, ça me convient pas de par la volonté du joueur. Je suis pas un grand fan de Mexès, hein, mais pour une fois, s'il y a un joueur qui a l'air vraiment d'aimer son club et de s'y sentir bien, et de coller aussi à l'image du club, j'ai envie de dire, bien que ce soit un Français, il a vite adopté les mimiques et le caractère romain.
Derossi et lui, c'est les mêmes. Hein.
Ouais, voilà, non, mais exactement. Tu vois, pour un joueur qui était qui est toulousain de base, format Auxerre, ça avait rien à voir, tu vois, théoriquement. Mais quand il s'est barré d'Auxerre, il avait tous les grands clubs sur lui. Il est allé à la Roma qui avait pas un rond. C'était en 2004 et tout, qui était qui venait de faire deuxième scudetto, mais qui devait perdre tous ses joueurs et tout. Et tu vois, c'est déjà le gars, s'il s'est barré quand même à la Roma à l'époque, alors qu'il pouvait finir à Manchester, Arsenal et tout, ça veut dire vraiment il voulait y jouer. Il est super pote avec Totti et tout. Vraiment, t'as l'impression, tu sens vraiment qu'il aime ce club, tu vois. Et il se barrera pas comme ça chez le premier venu, ou sera peut-être plus, c'est toute proportion gardée, comme Nesta qui avait été vendu par la Lazio parce qu'ils avaient besoin d'argent, et du coup lui s'est dit ok, je me casse, quoi, sinon il serait resté.
D'ailleurs, il a un petit peu poussé par la sortie, enfin on nous fait comprendre qu'il serait un petit peu poussé à cause des problèmes d'argent des SNC.
Ouais, non, mais c'est ça, de toute façon, la Roma, chaque année, est obligée de vendre un joueur pour renflouer ses caisses, sinon tout simplement, ils peuvent pas acheter de joueurs pratiquement, quoi, parce qu'ils voilà, ils ont un budget limité. C'est limite le seul club en Italie maintenant qui fait attention
à ses dépenses.
À son budget, ouais, voilà, à ses dépenses. Et puis, pour moi, c'est vraiment un truc. C'est une rumeur qui revient depuis 2 ans désormais, parce que voilà, aussi Mexès, ça fait, il a un peu le style physiquement.
Ouais, beau gosse, belle gueule.
Voilà, au niveau de son style de jeu, pour finir au Milan, tu vois, l'héritier de Nesta ou de Maldini, tu vois, c'est parfait, quoi. Mais après, je pense qu'au-delà de ça, le joueur Mexès lui-même veut pas partir, et ce sera pas si simple que ça, ça me paraît pas si évident, tu vois.
Élu d'ailleurs par certains supporters romanisti comme le joueur le plus apprécié, on va dire, après les De Rossi et Totti. Pour dire comment expliquer ça, la communion qu'il peut y avoir, voilà, exactement, l'osmose, ouais, ou la communion qu'il y a entre lui et le public.
Ouais, non, c'est tout à fait ça, tu vois.
Ouais.
Tu vois, donc c'est pour ça que moi, direct déclaré, je suis flatté de l'intérêt du Milan, mais voilà, moi j'ai pas envie de partir, je suis bien là, etc. Donc voilà, rumeur, oui, mais le Milan, c'est sûr, veut l'avoir, mais après, Mexès, tu vois. C'est pas lui qui dira vendez-moi, tu vois, à mon avis.
Ouais. C'est mon humble avis. Un petit mot sur le Napoli, parce que c'est Fab qui nous fait un petit peu ces réactions-là, nous trouve un Napoli, lui, de son œil bien sedanais, Napoli plus régulier que la Lazio, par exemple, où il avait aussi une petite remarque sur le Napoli aussi, qu'il nous avait transmise. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce Napoli-là? Est-ce que tu vois plausible le fait de le voir accrocher une quatrième place à la fin de la saison?
Oh là, alors les prétendants sont nombreux.
Moi, tu vois, je les mettrais entre lui et la Roma. C'est vraiment entre eux deux que je penche pour la quatrième place.
Mmh. Bah, ils ont l'avantage, tu vois. Ils ont l'avantage de ne plus avoir aucune compétition européenne. C'est avec le Genoa d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça qu'on les retrouve si haut aussi, je pense. Et puis c'est l'équipe, ils sont quand même assez réguliers, quoi. Ils s'étaient fait accrocher au Torino la dernière fois, quoi, mais c'est à peu près le seul accro de leur saison.
C'est surtout régulier au San Paolo, c'est ça.
Ouais, voilà, l'extérieur il galère un peu plus. Ouais, voilà. Quoi, mais, bon, de toute façon, on avait déjà beaucoup parlé du Napoli depuis le début de saison. Pour le moment,
que j'aime bien, parce que ça fait un petit peu, c'est classe. Enfin, c'est classe de revoir le Napoli en Ligue des Champions.
Tout à fait. Bénéfique pour le championnat italien et son image de retrouver une ville comme Naples qui doit
déjà,
être.
Déjà, le retour en UEFA a fait du bien, je pense. Même l'élimination prématurée par ces gentils Benfica.
Ah oui, il reste la coupe, pardon, Marvolo, merci de me le signaler, contre la Juve, d'ailleurs, ce sera le prochain match. Mais comment dire, non, c'est bien de les retrouver en Serie A à ce niveau-là, c'est une des plus grandes villes italiennes, ça doit être la troisième ou quatrième ville, après Milan et Rome, quoi, peut-être, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est important, le public, on le connaît, etc. Toujours présent. Et puis,
très vivante, en plus, ça, c'est vraiment une ville de foot avec un public très attaché à son équipe.
D'ailleurs, j'ai direct enchaîné sur la coupe, hein, parce que on va pas trop non plus s'attarder. Ouais,
excusez-moi.
C'est pas de soucis si on va aborder les transferts après, surtout l'affaire Kaka. Il y avait les deux derniers matchs de coupe qui se disputaient ce week-end. en semaine. Et il y avait tout simplement l'Inter, le finaliste l'an passé, qui s'est débarrassé du Genoa 3-1 en prolongation. Adriano a joué et a marqué.
Plutôt bon match d'ailleurs d'Adriano.
Oui.
Dynamique, assez correct, je trouve.
Carrément même. Et Balotelli, il n'a toujours pas été convoqué, tu vois. C'est, on en parlait un autre fois. Il est en train de le moucher, Mourinho là. Et donc voilà, victoire 3-1 contre un Genoa qui était venu chercher le nul en championnat en première partie de saison. Et puis l'autre match était la Juve. De toute façon, ces matchs-là sont diffusés sur Eurosport. C'est bien de le signaler, je pense. Ils sont acquis les droits de la Coupe d'Italie cette année. Donc
alors on ne cautionne pas les commentaires, mais on vous conseille quand même de regarder.
Voilà, exactement. Ah, c'est sûr. Mais et puis la Juve qui recevait Catania qui les a explosé 3-0 d'ailleurs. Avec Del Piero qui continue sur sa lancée, 13e but de cette saison, et puis il est auteur aussi d'une passe décisive. Et Giovinco qui a été titularisé milieu gauche, il n'avait pas trop fait tourner à Ranieri pour le coup, et qui a fait un superbe match. Et Ranieri a dit pour le coup, bon, allez, je vais peut-être lui donner plus de temps de jeu. Réellement, c'est vrai que ça commençait. On en parlait un peu moins parce que justement, ça devenait une habitude de le voir sur le banc et qu'il rentrait pas. Et on oublie un peu trop, et il faudrait pas gâcher ce talent, et peut-être que cette fois est la bonne. Et Marchionni qui a mis le troisième but. Donc du coup, la Juve se retrouve en quart de finale à Napoli. Ça va être le 4 février, et dès la semaine prochaine, on a les trois premiers quarts de finale. Alors on a tout simplement Inter-Roma qui était l'affiche de la finale de ces quatre dernières saisons. On va quand même le signaler, ça c'est quand même un truc rare, quoi, et c'est jamais arrivé. Mais... Et je finis juste le calendrier des rencontres. Et puis deux rencontres qui sont de moins belles affiches, mais ça se regarde toujours, l'Udinese qui reçoit la Sampdoria, et puis la Lazio qui reçoit le Torino. Voilà, 8 clubs de Serie A. À ce stade-là, la compétition d'Italie, en quart de finale, on retrouve rarement d'autres clubs que des clubs de la Serie A. Arnaud.
Ouais. Non, juste pour dire que c'est la Primavera de la Juve qui fait bonne figure à chaque fois dans les coupes nationales comme ça, et c'est encore une fois le cas. On a vu les premiers pas en tant que titulaire d'Ario Do, ouais. Un jeune aussi issu de la Primavera, mais c'est ça quoi, c'est la Juve, ils arrivent à sortir des Ceglie, Marchizio, ils arrivent à sortir des joueurs comme ça. Marchizio a trouvé une place de titulaire en championnat, mais comme Giovinco, ça lui permet de s'exprimer en coupe, et on voit toute la jeunesse de cette équipe qui est bien complémentaire avec la vigueur et toute la hargne qu'elle peut montrer sur un terrain, même en championnat. Je trouve que c'est vraiment un club qui est en parfaite harmonie avec tout ce qu'il montre un peu, c'est ce qu'il fait avec ses jeunes. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien géré ces saisons là du côté de la Juve. Tu crois pas, Billy?
Non, oui, bien sûr, mais bon, ça reste aussi un concours de circonstances. Hein. Marchizio, on l'a fait jouer parce que Poulsen n'était pas là, parce que Zanetti n'était pas là, tu vois. Ouais. Donc, ça mise sur les jeunes du cru, mais relativement à Rio doit jouer parce qu'il n'y avait plus personne. D'ailleurs, c'est sympa de signaler, la Juve a que trois défenseurs disponibles ce week-end. En fait, il y a les Grottali et Molinaro. Et Melberg, et voilà, Ariodo risque d'être titularisé contre la Lazio, tu vois. Ça va être intéressant à voir. C'est pour ça que j'avais des signalés sur mon site Calciopio. Excusez-moi, je me perds un peu de pub, que la Juve avait manqué de monde en défense, et ça s'est confirmé. Donc ça va être un peu tendu ce week-end. Marvolo,
pour Ariodo, ça va être bien de le voir que dans ce match de dimanche soir devant les télévisions de toute l'Italie, même dans l'Europe entière, et ça pourrait être très, très intéressant à voir s'il supporte la pression déjà maintenant.
Ouais. Non, mais c'est ça va être intéressant, ça va être un joli match.
Sur un coup de tête, je suis devenu l'ennemi en un jour. Je perds le rap de merde et choisis mon parcours. Sur un coup de tête,
je représente le ghetto. Ambiance quartier, soutien pour les potos, ouais. Le bitume dans le cœur, on connaît par cœur. Garde à vue, cellule, on peut être chroniqueur. Sur un coup de tête, on est content l'état. Sarkozy, si t'es chaud, lève ta veste, on se pétard. Sur un coup de tête, on peut devenir kamikaze.
Voilà. Voilà, on est de retour, excusez-nous pour ce petit intermède. C'est ça, c'est encore de la faute d'Arnaud, tout ça.
Excusez-moi. Donc, juste une petite précision, c'était ça sera Napoli-Juve. Hein, et...
Ouais, c'est ce que je.
Ça sera Juve-Napoli, pardon. C'était la Juve qui reçoit.
Pardon, moi ouais. J'ai Napoli.
Non, non, ça, oui, excuse-moi, c'était pour ça, Billy. Voilà.
Ok, vas-y, très bien. Bah non, en fait, je voulais tout simplement enchaîner son père de temps sur la rumeur qui a éclaté. Et qui fait
juste avant
rend le monde plus qu'une rumeur là. C'est
ouais, qui rend. Ouais, vas-y Arnaud, peut-être avant d'enchaîner, tu voulais peut-être aborder quelque chose visiblement.
Non, les Pazzini et tout ça.
Ouais, voilà, ouais, tiens, juste, on va en parler.
Juste ça avant, puisque c'est un petit peu moins important.
Voilà très bien. Le transfert du mercato pour le moment, c'est Gianpaolo Pazzini, ex-espoir italien. Attaquant, voilà, qu'on a annoncé une carrière brillante et qui a pas réussi à s'imposer à la Fiorentina, a signé pour 9 millions d'euros à la Sampdoria, transfert le plus cher de l'histoire de la Sampdoria, s'il vous plaît, messieurs, et qui sera aligné devant avec Antonio Cassano.
Ça fait bizarre de voir la Sampdoria débourser pour cet argent.
De toute façon, les Génois, traditionnellement en Italie, sont considérés comme étant pingres. Ouais, donc et Rapia, donc à la limite
Gênes,
ça collait,
qui est une des villes pour décrire un petit peu des villes du nord, pas très assez pauvres, assez en recul par rapport au Milan et autres Turin.
Si, ouais, c'est une ville portuaire avec les docks et des marins, tu vois, c'est un
voilà,
peu...
c'est un peu le Le Havre de France.
Voilà. Et comment dire, on va en parler rapidement. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Pazzini qui a quitté le club, il semblait un peu remonté contre les dirigeants de la, voilà, ils sont pas bien laissés. D'ailleurs, Prandelli a dit, qu'il était surpris du comportement de Pazzini, qu'il aurait pu, remercier les tifosi qui ont, c'est vrai, sans cesse soutenu Pazzini, la Fiorentina. Et voilà, donc c'est le transfert. Il sera aligné devant avec Cassano et en échange, la Fiorentina récupère Bonazzoli en prêt, qui est un attaquant qui avait une ou deux sélections à l'époque et qui a subi deux blessures consécutives au genou il y a deux saisons, qui a du mal à vraiment se relancer depuis, qui sera là pour faire l'attaquant de secours. Et encore côté Fiorentina, ils ont vendu Osvaldo à Bologne, qui est un attaquant italo-argentin qui avait fait ses débuts en sélection de moins de 21 l'été dernier et qui était vendu définitivement par les 7 millions d'euros à Bologne, mais ceci après le match contre le Milan, hein, parce qu'il faut rappeler que Moutou sera absent contre Milan demain soir, ainsi que Sébastien Frey d'ailleurs. Et voilà, donc la Fiorentina voulait dégraisser, c'est en train de se faire, récupère pas mal d'argent derrière, verra si ce sera investi. Ouais. Mais chose promise, chose due, ils avaient dit qu'ils dégraisseraient parce qu'il reste plus que le championnat à jouer, ils le font.
C'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais juste pour finir, je trouve juste que Pazzini Cassano sera de la gueule quand même devant, pour l'instant, pour la demi-saison, comme. Tu disais, mon avis, Cassano va se barrer à la première offre. Tu me le disais en off, à la première offre qui va être faite à l'été, mais déjà pour cette fin de championnat, ouais. Ça va avoir, je trouve, de la gueule. Numéro 10, Pazzini, numéro particulier dans le cœur des tifosi d'Oriani. Oui, vas-y, ouais. Vas-y, Lucie.
Pazzini, c'est juste une question de réflexion. Je me demande, il peut pas jouer la Coupe de l'UEFA. Il a été mis placé sur la liste en Ligue des Champions avec la
Fiorentina. Non, en fait, il peut parce que justement, il a joué la Champions League et pas l'UEFA, tu vois.
Ah oui, voilà. Ouais.
Un seul joueur et pas deux, comme ont dit les dirigeants du Real.
Ouais. Voilà. On peut...
Vous voyez, sinon, pour réagir, ouais, c'est clair que c'est une très bonne recrue, surtout quand on voit le début de saison un peu moribond de la part de la Sampdoria. Ça va peut-être permettre de repousser un peu tout ça et puis pourquoi pas faire une deuxième partie de saison. Très intéressante.
Bah, et puis ils sont encore en Coupe de l'UEFA, voilà, comme le signale Pierrot, quoi, donc il y a peut-être un
gros jeu. Mais contre qui ils jouent déjà ? Ah, je suis tout seul.
Je sais plus, ouais, je saurais pas te dire,
tu vois. Ça, blanc, voilà.
Ça m'a totalement sorti de la tête. Mais comment dire ? Par contre, tu vois, j'étais surpris, je me disais quand même, un joueur comme ça, comme Pazzini, qui était qui est encore deux ans, était un très bon attaquant, un des meilleurs du championnat d'Italie. Je suis surpris, tu vois, qu'il y a un club, comme le Milan ou la Juve, qui n'avait pas saisi l'occasion, tu vois. et au lieu de la Samp. Et voilà, je pense que c'est un bon, ça aurait pu être un bon coup. Et parce qu'on sait que c'est un joueur intrinsèquement qui a beaucoup de qualité et qui un jour ou l'autre percera. Ou voilà, il, je veux dire, il est pas pire qu'un Yakuinta ou il est pas pire qu'un Borriello, tu vois.
Bien au contraire.
Et, et voilà, et bon, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de voir qu'il a tiré justement des clubs qui essayent de sauver plus finalement, parce que l'autre club c'était Bologne qui était prêt à l'accueillir. On me demande un mini point sur la série B, mais alors rapide. Hein.
Ouais, s'il te plaît, juste rapide histoire de faire le point.
Bah, c'est simple, c'est un peu ça, rapide, ça va être dur parce qu'en fait cette année la série B est très très serrée en fait, et on a, c'est encore pire que la série A parce qu'en de la première à la septième place il y a 4 points en fait qui séparent Livourne de Brescia, et tous les clubs relégués la saison passée sont là, c'est-à-dire Livorno qui est premier, et l'Empoli qui est cinquième, et Parma qui est troisième. Et on a des surprises en plus, Grosseto, Sassuolo, pardon, excusez-moi pour l'accent, qui sont deux clubs promus. Sassuolo promu cette année en Serie B, Grosseto il y a 2 ans, et à Bari, entraîné par Antonio Conte, l'inoubliable, qui veut remonter en Serie A après plusieurs saisons. Et qui sait qu'on est encore dans le coup, Brescia qui est toujours et la Triestina aussi.
Bon, si on parle de Brescia, moi je parle de Zambrella, l'ancien joueur de Servette.
Ouais.
À part ça, c'est un excellent joueur qui pourrait peut-être bientôt mériter une place dans un petit club disons de milieu de tableau de Serie A peut-être bientôt.
Maintenant, juste pour dire que c'est très serré et c'est impossible d'en parler en 2 minutes, donc je ne ferai pas cet affront.
Ouais. Ok. Mais on avait dit qu'on s'était promis qu'on fera le tour des deuxièmes divisions. C'était une idée à toi, Billy. Des championnats, c'est très très peu médiatisé. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et donc, on va passer.
On va finir en beauté.
Voilà. Si on peut. L'affaire Ricardo Kaka. Les chiffres de cinglé. Ce qu'on annonce, c'est vraiment. Voilà, même si je gagne ça dans toute une vie
moi c'est pas vraiment le salaire qui me surprend le plus, parce que 15 millions d'euros
80 000 euros par jour ça fait.
Non ouais, en première ligue on est dans les 12 millions d'euros si je me trompe pas, les plus hauts salaires. Kaka a gagné plus de 10 millions d'euros si tu veux cette année déjà au Milan. Zlatan Ibrahimovic prend 11 millions d'euros. Tu vois, c'est pas ça qui est pour moi le plus aberrant à la limite, parce que bon, pour eux c'est quand même bizarre d'en parler. Enfin, après voilà, faut rester dans le contexte du foot et se dire qu'un ou 2 millions d'euros de plus pour eux c'est pas ça qui va changer leur vie si tu veux. Et mais c'est plus moi le prix du joueur en fait qui est étonnant et qui fait réfléchir. C'est-à-dire le record actuel c'est Zidane qui passe de la Juve au Real en 2001 pour 75 millions d'euros, et là on parle de 150, donc le double tout simplement. Et c'est ça qui est le plus choquant, alarmant, je sais pas, parce que limite c'est sa thune hein, au tchèque de Manchester City. Voilà, il en fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, faut
vraiment. Ouais, là, on arrive quand même, Billy, sur un problème.
Je rappelle juste, Marvolo, tu connais son prénom, si j'oublie toujours, excuse-moi.
Mansour,
c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le président c'est Khaldoun El Moubarak, et le propriétaire par contre c'est le Cheikh Mansour Ben Zayed Nahyan. En gros, c'est pour vous donner juste une idée, c'est celui qui a découvert en 85 qu'il y avait des puits de pétrole aux Émirats. Donc, pété thune. Leur famille, voilà. La fortune de la famille royale, c'est 360 000 milliards. Enfin non, 360 000 milliards, c'est ça? Ou non, pardon, 360 milliards. Et ses actifs à lui, c'est-à-dire ce qu'il peut claquer sans demander la permission à personne d'autre, c'est dans les 18-19 milliards. Donc, tant vous dire, c'est impressionnant.
Donc on va l'appeler Mansour, c'est ça là,
si je... Ouais, c'est ça, c'est plus facile.
Voilà, et qui donc à la tête là de Manchester City, et qui propose comme ça en plein mercato d'hiver, comme c'est dans la tête, alors au début c'était 100 millions d'euros, et le Milan a en gros refusé, mais en faisant comprendre que, enfin selon ce qui se dit, hein, parce que on en sait pas des masses non plus, en gros fait comprendre que pourquoi pas quoi, et le Mansour a dit alors vous voulez combien pour Kaka? Il a dit moi je donne 120, et là on est à 150, maintenant ça augmente toujours plus. Marvolo?
Ouais, moi c'est juste une question d'ordre pas juridique, ce serait un bien grand mot, mais en fait les chiffres que j'ai lus moi en gros c'est que c'est 150 millions, c'est un prix global entre, donc en gros ce sera environ 120, non quand je dis 150 c'est pas ça, je veux dire c'est environ 120 millions pour le club et 30 millions pour les agents. Vous avoue que pour le coup, 30 millions, donc le quart du transfert, ça me paraît franchement excessif. Donc je sais pas si tu avais plus d'infos là-dessus.
Ouais, non, j'ai lu la même chose aussi. J'ai lu la même chose. Et à la limite, bon, ça me surprend pas parce que dans le système, dans le foot d'aujourd'hui, c'est le foot d'aujourd'hui est toujours plus, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, dirigé par les agents de joueurs qui ont un pouvoir démesuré selon moi et qui font un peu ce qu'ils veulent et mais qui ramènent qui ils veulent dans tel club et puis surtout qui se prennent des putains de commissions 20 millions d'euros ce serait énorme quoi et voilà à la limite ça me surprend pas parce que c'est on se dirige toujours plus vers cette configuration là pour ce qui est des
non mais juste par rapport à ça moi je me rappelle juste que pour le cas Makelele par exemple ça avait où il y avait énormément de négociations entre le Real et Chelsea, je me rappelle que les commissions, c'était 3-4 millions. Donc pour un transfert de 34 millions, ça représente un peu moins de 10%. Alors que là, on est à 20%. Franchement, ça me paraît... mais bon, c'est pas surprenant.
Ouais, mais bon, on va dire que c'est un bon moyen de motiver les agents de ramener Kaka à Manchester City après. Hein, voilà, je pense qu'il n'y a même pas mieux. Quoi. Enfin bref, pour dire que officiellement, les dirigeants Rossoneri se sont pas prononcés, si vous voulez. Et c'est justement ça qui a fait flipper, parce que alors, le Milan, Galliani et compagnie, d'habitude, c'est les spécialistes pour balancer un communiqué officiel sur le site, pour dire on dément tout transfert de tel joueur, etc. Et voilà, quand il y a une rumeur de Marca, ça hésite pas même à faire des articles à taille un peu, tu vois, gentiment. Et là, justement, il n'y a rien eu.
Que c'était une rumeur qui a pris de l'ampleur, qui faisait la une de tous les sites des grands journaux italiens en une journée. Billy, tu me confirmeras ça. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment aucune réaction de la part des dirigeants. Il y en a eu une d'Ancelotti aujourd'hui.
On revient, aujourd'hui.
Ouais. On reviendra un petit peu dessus peut-être après. Mais juste sur la rapidité de l'événement, c'est vrai que c'est... Alors, on a appris aujourd'hui dans certains communiqués de presse aussi que la négociation serait depuis déjà de longs mois et que une fois l'accord trouvé, ça a été très très vite divulgué à la presse, mais que on n'était pas au courant et que ça se serait un petit peu déjà tout filonné déjà depuis quelques mois.
Alors ça j'en ai aucune idée, je peux te dire sincèrement que j'ai...
Ah bah ça on peut pas vraiment savoir, tant qu'on n'est pas dans les couloirs de Piazzolatti, on peut pas savoir.
Je suis pas tombé sur ce genre de rumeurs, enfin bref, ça pour dire que c'était particulier. Simplement parce que une rumeur de Manchester City qui veut mettre 4000 milliards d'euros sur Zob ou Podzob là, sur n'importe quel joueur, et à la limite on n'y faisait plus attention, on avait vu 75 millions pour Buffon, tu vois, c'est bon, on rigole deux secondes et puis c'est bon, on clique, on va pas suivante, tu vois, Marvolo. Non?
Non, mais juste par rapport à ce que, juste pour te donner juste une idée, pour savoir qu'en fait c'est plus un plan pour la première ligue et pas pour autre chose, parce que faut savoir que Barclay, donc le sponsor de la première ligue, a quasiment fait faillite, et déjà pour sauver le club, il avait injecté 8 milliards ou plus ou moins, donc, c'est la famille El Nahyan, donc c'est ceux qui dirigent les Émirats, c'est quand même des gars qui sont, qui adorent le sport, même si ça paraît un peu surprenant, et, savoir que celui qui est président actuellement, c'est il veut investir les courses de chevaux parce que, et là je sens que je vais me faire arracher la gueule après, parce que il trouve que ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire les courses de chameaux, c'est pas assez prestigieux. Mais
non, mais tu fais bien de dire.
Au-delà, c'est même pas une blague. Hein, donc c'est en fait, si je dis pas de bêtises, c'est son frère en fait qui est le qui est en ce moment président des Émirats, et lui, il se pose sur les cours de chameau. Alors, franchement,
mais tu vois, chapeau. Moi, je suis d'accord avec toi, Marf, pour le coup. Tu vois, je suis même pas tombé dessus sur le Mansoud, hein, on a décidé de l'appeler, je sais plus.
Mansour,
voilà. Parce que tout le monde a dit c'est honteux, machin, etc. Mais comme tu dis, c'est un gars qui apparemment aime le sport, ce qu'on a dit. Et même Cesare Maldini, qui est quand même pas le dernier venu, bordel. Il parle pas pour rien dire. A déclaré aujourd'hui, c'est dans le Corriere, dans tout au sport, je crois, dans le Corriere, que ouais, voilà, c'est un gars qui aime le foot et tout, et il est pas là pour se faire de la thune, comme Abramovic, tu vois, en gros, j'ai envie de dire. Si on doit faire une comparaison, lui, il arrivait avec son pétrole et tout, il s'en battait les reins, il voulait un jouet, voilà.
D'ailleurs, il a bien vu que maintenant, comme il a énormément perdu, il a compris qu'il a des réticences maintenant à investir, et tandis que l'autre, alors là, pas du tout.
Non, mais c'est pour ça que il peut plus rouler des mécaniques maintenant. Hein.
C'est vrai qu'il y a vraiment.
C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus riches. Hein.
C'est pour ça que moi je tomberais pas dessus tout de suite, tu vois, sur Mansour. et lui et dire il fout le football en l'air et tout etc, parce que d'une c'est pas le premier franchement quoi, et bon là ça atteint peut-être des proportions
en fait c'est
importante, mais voilà, mais je voulais juste conclure sur la réaction des dirigeants, excusez-moi je me permets de terminer, qui ont rien dit et qui ont en gros fait comprendre qu'ils négociaient, ce qui est pas ce qui est pas une réaction habituelle des dirigeants rossoneri, parce que par exemple quand Gattuso a voulu quitter le club l'an passé, il s'est accordé avec le Bayern de Munich. Voilà, Galliani a sauté dessus, il a dit, il a convoqué au bureau, il a dit, tu signes la prolongation de contrat ou tu sors pas, tu vois. Et c'était comme ça habituellement. Et c'est pour ça que là, le fait que les dirigeants sont restés sans nouvelles, on a compris. C'est le seul indice qu'on a en gros pour dire que c'est en train vraiment d'étudier l'offre. Et puis Kaka aussi, lui, il a dit, clairement quoi, pour le peu de déclarations qu'il a laissées, il a dit bah voilà, j'ai l'impression que c'est en train de se négocier. Hugo.
Ouais. Et surtout, il faut dire un truc, c'est que 125 millions, c'est à peu près le prix de l'OM quoi. Donc c'est vraiment dur de refuser cette offre là, et à mon avis, c'est ce qu'ils doivent penser les dirigeants en ce moment.
Ouais, moi je suis totalement d'accord. Tu vois, je prends l'exemple, j'ai déjà dit sur le forum tout à l'heure, de Zidane en 2001, encore lui. Quand même, non, mais si, Marvolo. Considérer le meilleur joueur du monde à l'époque, sans aucun doute en 2001, voilà, il avait fait l'Euro 2000, machin, etc. Je vais pas tout vous raconter. Et la Juve qui le vend, tu vois, le truc impensable, quoi, vendre le meilleur joueur du monde, de dingue. Et le vend 75 millions d'euros. Derrière, elle achète qui? Nedved, Buffon, Thuram. Thuram, il sera un pilier de l'équipe jusqu'en 2006. Et Nedved et Buffon, ils sont encore. Et avec ça, la Juve s'achète ces trois joueurs et recommence un nouveau cycle derrière, parce que voilà, de toute façon, même malgré la présence de Zidane, depuis 2-3 ans, ça allait pas super. Et enchaîne deux Scudetti, une finale de Champions League et tout, etc.
Pour rappeler quand même que Parme et la Lazio étaient dans des situations financières catastrophiques à cette époque-là. Donc,
oui, bien sûr.
Ils étaient en position de force pour négocier. Ce que ne sera peut-être pas Milan en l'occurrence.
Ouais, je sais bien. Après, voilà, il y a l'effet. L'effet domino, enfin je sais pas comment dire quoi, mais qui fait que si Milan se retrouve comme quand on avait vendu Shevchenko 46 millions d'euros à Chelsea, tu vois, et derrière on était sur Oliveira, et le président du Betis, Marvolo va me dire son nom,
Manuel Ruiz de Lopera, enfin l'ancien président,
voilà exactement, et qui a dit Oliveira, oui mais je vous vends pas pour moins de 18-20 millions d'euros, alors qu'il en valait peut-être la moitié, parce que ça faisait un an qu'il était blessé, et etc, tu vois. Et c'est justement ça qui va, enfin, il y a le risque que ça arrive. Mais après, voilà, ils vont pas faire les fous non plus. Je sais pas, un exemple, on vend Kaka 125 millions d'euros, on arrive face au Genoa, on dit, tiens, 30 millions d'euros pour Milito. Voilà, je veux dire, il va pas prendre le risque de demander 50 millions d'euros, tu vois. En plus, on a des dirigeants qui savent quand même y faire depuis 20 ans dans le monde du foot, qui ont l'expérience nécessaire pour, bien que le cas Oliveira défense le contraire. Mais bon. Voilà, je veux dire, c'est quand même une somme qui pourrait être investie intelligemment. C'est une somme qui est réinvestie de façon intelligente. Moi, je suis franchement pas contre, tu vois. Je suis franchement pas contre. Surtout que Kaka, depuis 2-3 ans, il a toujours dit Milan, oui, mais voilà, peut-être qu'un de ces quatre, je me barrais, tu vois. Sauf qu'on lui proposait Chelsea et le Real qui vont en Champions League chaque année. Et là, on lui propose Manchester City qui, cette année, lutte pour le maintien, tu vois. C'est là la différence. C'est là pour ça que Kaka. Malgré ces belles phrases, parce que moi j'y crois pas une seconde, hein. Je veux rester, je veux vieillir ici, je veux être capitaine. C'est pour ça qu'il a décidé de pas franchir le pari. Je pense aussi le fait que ça se passe en plein milieu d'une saison comme ça, c'est bizarre, quoi. Parce que un grand club, un des plus grands clubs du monde comme ça, qui lâche son meilleur joueur en plein milieu de saison, à mon avis, ça s'est jamais vu aussi.
Et de c'est ce qu'on sait, c'est ça, c'est comme tu le dis, il manque que la signature de Kaka, donc.
Ce serait plus ou moins ça, même son père ferait pression, si tu veux, sur lui.
Son père et son conseiller, c'est mes deux pourritures, mais comme rarement on peut trouver ça dans le monde du, enfin, dans le monde du football, on en trouve beaucoup.
Ouais, connu président au Milan, hein, donc,
ouais, enfin, je pense
qu'il allait trop vite, quoi.
Tu sais, mais je veux dire,
non, mais son père aussi.
Non, mais son père, en plus,
Le père l'avait poussé pour aller au Real, il me semble, Billy, non?
Ouais, voilà, ouais, mais et puis en gros, la rumeur, c'est la rumeur. Enfin, excusez-moi, je dis les rumeurs parce que je peux pas affirmer ça. J'étais pas, mais c'était que Kaka serait disputé au téléphone avec son père qui est en train de le convaincre pour le faire signer à Manchester City, quoi. Donc voilà, et pour finir aussi sur cet épisode, ça finit aussi par les déclarations de Carletto. en conférence de presse aujourd'hui, tu vois. Donc ça aussi c'est très rare, tu vois, qu'on parle comme ça sans se cacher d'un transfert ou en cours de route. Et voilà, je voulais rapporter les déclarations d'Ancelotti. Il a dit, en ce qui concerne l'affaire Kaka, les dirigeants sont en train d'évaluer l'offre. Donc tu vois, si c'est Ancelotti qui le dit quand même, c'est qu'on est vraiment là sur le point de négocier. Mon souhait est de pouvoir rencontrer Kaka de nombreuses années parce qu'il est un joueur important et blablabla. Mais on peut pas de comparaison avec le foot il y a 20 ans. Tout a changé, il y a de grands investisseurs, faut s'adapter. Avec ou sans Kaka, les objectifs restent les mêmes. Avec la qualification au minimum en Champions League par la Serie A et la de l'UEFA, mais l'équipe resterait compétitive. Avec ou sans lui, ça ne dépend pas de mon ressort. Moi, je m'occupe du côté technique. Les dirigeants s'occupent des transferts, etc. Quoi. Et si on en est arrivé là, quand même, c'est devenu, c'est plus du tout une rumeur simplement, et c'est qu'il y a un transfert qui est en train de se négocier. Hugo.
Ouais, surtout pour si Kaka y part, il y a quand même Gourcuff qui est derrière, même si c'est pas le même calibre que Kaka, ça reste quand même un bon joueur. Quoi.
Donc, c'est notre affaire. Il faudra régler à la fin de la saison.
Messieurs, vous battez pas, je ne sais pas ce qui s'est passé.
En attendant, il y a un Kaka qui est en passe d'être envoyé à Manchester City, espérons-le pas. Et l'affaire Gourcuff, on la réglera que cet été. On a besoin d'un affaire bien plus compliqué et ça va être...
Non, mais surtout pour Gourcuff, Ancelotti s'est également exprimé aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit, de toute façon, c'est pas lui qui remplacera Kaka, c'est pas le même genre de joueur. Il est plus lent et voilà quoi. Et donc tu vois, même s'il compte même pas en faire.
Mais il a quand même dit qu'il pouvait revenir. Il commence.
Ouais, bien sûr.
Essayer de.
Non, tout à fait. Ah ouais, juste pour finir aussi, j'ai l'image sous les yeux. Voilà. Aujourd'hui aussi, il y a des tifosi, j'imagine les Capivultra qui sont allés manifester via Turati à Milan, qui est le 3 via Turati, si vous passez par Milan maintenant vous le saurez, qui est l'adresse du siège du club. Ils sont allés, il y avait allez, 70 tifosi qui sont allés manifester pour dire caca reste, etc. Voilà. Et j'avais une dernière chose à dire. Faut que ça me revienne. Bref, ça va me revenir après.
C'est peut-être ça. Il y a quand même des grands noms de Milan AC qui se sont exprimés sur l'affaire, ce qui arrive pas extrêmement souvent. Gianni Rivera, par exemple, a un petit peu s'est exprimé, et surtout Boban, qui d'habitude, ne raconte jamais d'imbécilité, qui a dit que l'offre était pour réduire, l'offre était très très difficile à refuser pour le Milan AC, et que si ça ne se ferait pas maintenant, ça se ferait plus tard, après une offre encore plus élevée, donc.
Et c'est ça. Et surtout, il a dit quelque chose de très intéressant. Zvonimir Boban, qui est ex numéro 10 croate, hein, tout le monde s'en souvient, du Milan AC, entre autres, et qui aujourd'hui est journaliste et consultant sur la Sky, et qui fait très bien son boulot d'ailleurs. Il a dit tout simplement une chose très vraie. C'est si Kaka refuse cette offre, il va tout de même pouvoir se pointer dans 2 mois, toc toc toc, au bureau de Galliani, et dire, attends, on m'a proposé 15 millions avec Manchester City, maintenant tu me les donnes, tu vois. Et donc bon. Et il s'en priverait pas, si tu veux, comme il a fait, à limite, jusqu'à maintenant, parce que chaque année, on lui renouvelle son contrat en l'augmentant. C'est bien que maintenant, il gagne 2 fois plus que le 2e plus gros salaire d'équipe. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une offre de 125 millions pour un joueur comme Kaka, qui selon moi, selon mon humble avis, a vite été dépassé, était relégué de son poste de meilleur joueur du monde, notamment par Cristiano Ronaldo ou Messi, tu vois. Et 125 millions d'euros pour un joueur qui, depuis un an, je crache pas gratuitement sur Kaka, hein, mais ce qui est vrai, il faut dire ce qui est quand même super irrégulier. Et on attendait beaucoup plus, tu vois, depuis son ballon d'or. Et ben, limite aussi, ça, ce serait peut-être aussi une raison pour le vendre, quoi, parce que on se dit peut-être que tu vois, comme le Barça avec Ronaldinho, si tu veux, qu'ils ont attardé 1 an de plus ou 2 ans de plus pour le vendre, et finalement, ils ont vendu à 20 millions d'euros, comme si, voilà, 2 millions de plus qu'Olivera, si tu veux.
Ouais. C'est sûr.
Et voilà, ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte et à évaluer le niveau.
Surtout que Kaka, c'était un petit peu un cycle du Milan AC ces dernières saisons, si on peut dire ça comme ça. C'était un petit peu l'image à l'étranger, du Milan AC à partir de 2003, et donc de celui qui a remporté 2 Champions League. Et donc, je pense vraiment que Kaka a un pouvoir d'image en plus sur Galliani, et je rejoins parfaitement ce que dit Boban en disant qu'en plus du salaire que lui propose en ce moment City, il a cette image comme quoi, je pense moi réellement que si Kaka s'en va, il y aura vraiment quelque chose qui s'en ira aussi au niveau des yeux du monde entier sur le Milan AC, avec peut-être moins d'audience, moins de tifosi dans le monde, parce que on sait souvent qu'il y a des supporters qui sont là pour un joueur, et je pense que lui en rassemblait bon nombre.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, et ça me permet de rebondir sur une dernière chose peut-être, parce que on va pas non plus s'éterniser longtemps, mais c'est un sujet très intéressant. Que tu vois, si tu veux, Kaka, comme tu dis, depuis 2-3 saisons et jusqu'à juillet dernier, c'était l'image du Milan, tu vois. Et sauf qu'en juillet, il y a Ronaldinho qui a débarqué. Surtout, là, il y a Beck, quand même, tu vois, qui est arrivé. Et deux des trois plus grosses stars de la planète foot, si tu veux. Et qui ont éclipsé tout simplement l'image de Kaka et l'importance aussi de Kaka. Tu vois. Et c'est ça qui m'étonne un peu. Parce que c'est quand même paradoxal cette situation, ce qu'on est en train de vivre. Parce que Kaka pourrait, qui est officiellement. Se sent poussé vers la sortie, tu vois. Ça reste que ça, quand même, aujourd'hui, la situation. Pourrait justement dire, s'en servir, et il en a des excuses, tu vois. Facile, mais il en a, tu vois. Il pourrait dire, ouais, mais ça pourrait être aussi une excuse, ça. Mais de toute façon, j'ai moins d'importance dans l'équipe.
D'ailleurs, il l'a dit souvent que son placement sans Ronaldinho lui convenait mieux qu'avec. C'est des petits sous-entendus, je trouve, qui montrent bien un petit peu une anxiété de la part de Kaka, je trouve.
Mais oui, c'est quand même un joueur qui est. Enfin, tu vois, moi, c'est un joueur que j'adorais quand il est arrivé au début. Parce que j'étais pas fan des Brésiliens, mais franchement, on avait un Brésilien qui avait rien à voir avec le Brésil, tu vois, qui avait pas du tout un style de jeu brésilien. Et voilà, et j'étais franchement content quand j'ai vu ça. Puis pareil, garçon exemplaire et tout, propre, tout. Après, il a commencé à avoir ses petits caprices et tout. Faire arriver son frère, vouloir tel joueur, la colonie de Brésiliens.
Un enchaînement de choses qui fait que
voilà l'image à mes yeux en tout cas tu vois c'est dégradé et aux yeux d'autres supporters aussi j'imagine enfin bref voilà tout ça pour dire que je sais plus où je veux en venir tu vois maintenant je me mélange quoi mais c'est une situation quand même bien particulière je pourrais facilement dire Kaka ce traître veut se barrer mais faut être conscient que pour le moment la situation c'est on pousse Kaka vers la sortie parce que lui a franchement pas envie d'aller s'enterrer à Manchester City et jouer le maintien voilà je pense que c'est ça qu'il faut retenir et qu'il y a vraiment des vraies négociations qui sont en train de se passer au dire en tout cas des propos de l'ami Ancelotti voilà
parfait Billy on reviendra dans une émission prochaine sur l'ampleur que prend l'argent et
juste pour conclure un peu sur Kaka il y a quelques rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi il pourrait pas jouer demain contre la Fiorentina.
Ça, c'est vraiment le truc qui mettrait fin à tous les doutes.
Oui, c'est sûr. On reviendra dans une prochaine émission sur l'ampleur qui est en train de prendre l'argent. Mais bon, c'est vrai que, comme me l'a fait remarquer certains sur le topic, Berlusconi, ça a été le premier à faire dans cette étape, on va dire, à passer cette étape du très grand riche italien et à pouvoir acheter un petit peu tout ce qu'il voulait, investir, jusqu'à il y a deux, trois ans où il a dit j'arrête de mettre de l'argent dans le Milan AC, ce qui fait que Milan se retrouve un petit peu à court et un transfert comme ça arriverait à la bonne heure pour les dirigeants et reconstruire une équipe. Donc, merci bien, monsieur Billy et monsieur Helvetia, c'était très complet. Sur l'Italie où on a passé une heure là, comme nous vous a rappelé Marvolo il n'en revenait pas, c'est vrai que d'habitude on est un petit peu réduit en temps pour nos amis transalpins donc à présent nous allons passer après ce magnifique jingle de la part de Dan nous allons passer à l'Espagne et sa capitale madrilène très chère au cœur d'Dan qui connaît énormément de rebondissements au niveau de sa présidence a commencé par la démission aujourd'hui même, si mes informations sont bonnes, de son président ex à présent, Ramon Calderón. C'est bien ça, Anne?
Ouais, donc
je vous lance. C'est parti, comme dirait Marvolo. À vous, mesdames.
Ouais, mais on va d'abord faire ça dans ordre chronologique. Donc on va d'abord commencer par parler de la coupe. Et avant ça, on va saluer Billy.
J'avais pourtant bien préparé mon entrée.
Tu l'as bien niqué, c'est tout.
Ouais, ça fait plaisir, c'est pour moi ça. D'abord, on va chez Billy qui doit partir.
Ouais, voilà, ouais, ouais, je me matais le parrain 2 pour être précis. Quoi.
Non, on te croit pas, c'est pas grave, on te croit pas.
Bon, bah, bonne soirée à tous et à très bientôt.
Salut Billy et merci encore.
Ouais, donc on va commencer donc comme j'ai expliqué par la Copa. Et ben comme un peu la semaine dernière, ben on va commencer par parler de Atlético Madrid Barcelona. Franchement, ça devient ridicule cette équipe. Elle est cette équipe du Barça, elle devient ridicule et insolente de réussite parce que là aussi j'ai la compo sous les yeux, je vous la donne. Pinto, Alves, Marquez, Cáceres, Silvinho, Touré, Busquets, Gudjonsen, Leb, Boyan, Iniesta, et cette équipe-là, sans trembler, et j'insiste bien sûr, sans trembler, a battu l'Atlético qui jouait avec quasiment tous ses titulaires, sauf Forlan et Ucfalozzi, 2-1 facilement, donc ouverture du score de Sinama Pongol à la 24e, ensuite Boyan 5 minutes après qui égalise, et puis Gudjonsen qui marque, donc franchement ça devient impressionnant, parce que cette équipe-là, c'est... En deux matchs, ils mettent 5-2 à l'Atleti, sans forcer le talent, sans jouer avec leur titulaire. Autant vous dire que c'est pareil, quoi. Hein.
Jour après jour. Avec les titulaires en championnat, ils en mettent 6. Donc, c'est...
Ouais, c'est ça, c'est 6-1. Mais le truc, c'est que jour après jour, eh ben, pour reprendre l'expression de Pierre Ménès, c'était il y a 3 semaines, on disait que Barça-Lyon pourrait tourner à la boucherie. 3 semaines plus tard, on continue à penser que ça va être une boucherie, et dans 3 semaines, ça sera une boucherie. Donc Anne, sur ce match.
Ouais, moi je veux surtout revenir sur l'Atlético. Défensivement, c'est de pire en pire. Là, quand on regarde, c'est 3 buts contre le Barça il y a une semaine, 3 buts contre l'Atlético Bilbao, et encore 2 buts c'est contre le Barça. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand on avait parlé de la Ligue des Champions, on avait parlé des problèmes défensifs de l'Atlético et je voulais savoir si toi tu penses que ça c'est ce qui va vraiment leur coûter en Ligue des Champions.
Ouais, je t'avoue que là sur le coup j'ai un petit peu un trou de mémoire sur l'adversaire qu'ils vont jouer. Il me semble que c'est Porto, non?
Ouais.
En 8e. C'est ça, c'est autant il y a 3 semaines je disais que ça pouvait que l'Atleti était favori. Maintenant je commence à en douter de moins en moins, à en douter de plus en plus plutôt, et surtout parce que non seulement ils ont de plus en plus de problèmes défensifs et c'est tout ça est cristallisé par les performances à la limite du ridicule de Eitinga, mais aussi parce que même devant il y a un peu de moins bien. Ils ont d'ailleurs perdu sur blessure Maxi Rodriguez qui s'est blessé à l'entraînement. Agüero il est plus vraiment dans le coup. Donc franchement ça commence à devenir de plus en plus dur et c'est franchement comme tu l'as dit défensivement c'est c'est nul quoi, y a pas d'autre mot.
Et moi j'ai pas vraiment vu le match, mais j'aimerais revenir aussi sur les déclarations de Guardiola par rapport à Perea. Je sais pas si t'as vu l'action, s'il veut vraiment blesser Messi ou pas.
En tout cas, il y va pas pour le ballon, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Donc juste pour resituer le contexte, c'est à la 72e, il me semble. Comment il s'appelle? Voilà, donc Perea, le défenseur central colombien qui fait un tacle d'attardé, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Surtout que c'était terminé, quoi, parce que le Barça menait déjà 2-1, donc c'était impossible pour l'Atlético de se qualifier. Et puis il arrive, il te met un gros taquet sur un gros tampon bien méchant, quoi, sur Messi, qui venait d'entrer. Moi, je suis d'accord avec Guardiola, quoi. Puis moi, je peux te dire ça avec plus de. Pas de recul, mais parce que j'ai vu le match dans un café et puis y a tout le monde qui a gueulé quoi. C'était, il est vraiment pas parti pour le ballon quoi.
Ouais. C'est dommage. Pardon, c'est dommage parce que moi je trouvais cette équipe vraiment depuis un petit peu la bonne saison de l'année dernière de l'Atlético. Je trouvais vraiment cette équipe intéressante et cette année leurs problèmes défensifs sont en train de les couler complètement. Chaque semaine vous nous répétez un petit peu les mêmes résultats pour cette défense de l'Atlético et je trouve que ça devient vraiment catastrophique. Est-ce qu'ils pensent à recruter à ce mercato là, Marv?
C'est ça le problème, c'est que pareil j'ai pas entendu un seul nom quoi.
Ah ouais. Oui. Ouais, parce que vous me dites la seule rumeur... ça a l'air vraiment d'être affreux.
Ah oui. Malheureusement, on n'a pas la Furia Roja avec nous aujourd'hui pour en parler, mais pour vous donner une idée sur le topic Valence, celui qui dit le nom Eitinga a un gage, donc...
Original, effectivement.
Ouais. Et puis c'est, on doit mettre un kit en fait spécial Eitinga, un truc horrible. Mais voilà quoi, il y a pas, c'est ça le problème, c'est que ils pensent absolument pas recruter, alors qu'en plus déjà j'avais, pour en avoir parlé dans une précédente émission, on avait dit que moi, enfin personnellement, je trouvais que l'effectif était un peu léger. Et puis quoi, il y a rien en échange quoi. Il y a rien en retour, il y a pas de transfert prévu. On teste juste des solutions, mais franchement, si on enlève Eitinga pour mettre Pablo ou Perea, c'est pareil quoi, ça reste ridicule.
Ouais. Donc ça, tu trouves vraiment que il y aurait presque tout à rechanger dans cette défense de l'Atlético. Bon.
Ouais.
Ma foi, c'est dommage. Parce que quand tu vois, comme tu nous le répètes souvent, le potentiel offensif de cette équipe. Gâché comme ça par la défense catastrophique. Donc il y avait un autre gros match dans cette Copa.
Il y avait pas vraiment d'autres gros matchs, mais je vais juste faire ça un peu par en fonction du tableau. Donc l'adversaire de Barcelone en quart de finale, donc ce sera l'Espagnol Barcelone qui a battu le Polirio, équipe de 3e division il me semble, ou de 2e division. C'était un match très serré parce que le Polirio avait gagné 3-2 à domicile. Et au retour, l'Espagnol pouvait se contenter d'une victoire 1-0. But marqué à la 7e, but contre son camp de Robles. Qui, quand même, je trouve qu'il a fait un gros match. Je sais pas après si tu as vu le match, toi, Anne.
Non, bah, j'ai pas du tout vu le match.
Mais franchement, c'est vraiment le match typiquement de Coupe, quoi. C'est la grosse équipe qui joue le petit club et puis. Beaucoup plus de motivation du côté du Polirio que de l'Espagnol. Hein. Donc tu voulais revenir toi sur le derby en quart de finale.
Ouais, en fait c'était pour saluer entre guillemets la décision prise par l'Espagnol de Barcelone, qui a décidé en fait de ne vendre que des places aux supporters de l'Espagnol pour éviter tout incident. Donc ça va économiquement ils y perdent, mais c'est pour assurer un match dans la sécurité quand on sait l'événement.
Ouais, et d'ailleurs. C'était les Nelson Neutsch ou Neutsch Boyd ou je sais plus trop quoi qui avaient créé des incidents lors du dernier match. Et pour vous donner une idée, en 8e division ou 9e division, ils avaient joué un match ce week-end,
ouais,
contre une équipe composée uniquement d'Argentins, il me semble. Et,
De personnes d'Amérique latine, ouais. Et,
voilà, et ils ont pété 10 joueurs.
C'est parti en bagarre générale, on va dire.
C'est transformé en pugilat, ils ont pété 10 joueurs. De l'équipe adverse, donc autant vous dire que c'est des fins poètes. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une très sage décision. Hein. Oh. Et ben donc on va enchaîner sur un autre quart de finale, donc Mallorca Almeria, là un match assez inintéressant parce que Mallorca a gagné 3-1 à domicile et puis ils ont géré au retour. Ils ont régalisé très tôt, donc ils se sont très vite mis à l'abri. Le seul truc franchement significatif de ce match-là, c'est le très très beau but de Arango, quoi, que je vous recommande de regarder.
Du côté, Arango, c'est un joueur de
Du Venezuela, il me semble.
Ouais. D'accord. Ça me dit rien.
Je vous avoue que je suis même plus sûr, mais je pense que c'est du Venezuela, ouais.
D'accord.
C'est un joueur, pour vous situer un peu le niveau, c'est une sorte de. Bon, toute proportion gardée, une sorte de Pascal Finduno de la Liga, quoi. C'est, à son poste, c'est l'un des tout meilleurs joueurs, mais très irrégulier, quoi.
Ouais.
Donc l'adversaire de Mallorca, ce sera mon cher Betis qui a battu la Real. Deux victoires, donc 1-0. Pas grand chose à dire non plus sur le résumé de match.
Ouais, J'entends le clic-clic des glocks, on joue pour foutre le souk. L'atmosphère est crade, les flics sont aux aguets. Je suis l'émissaire boucle, faut-il être juste pour être toujours innocent? À mon sens, non, les innocents sont souvent les plus coupables. Et moi, je suis juste coupable d'être innocent. Est-ce que ça sent que j'ai la fousse? Et comment je fais la une de la presse? Bien sur cet échiquier, le jeu est truc et reste plus qu'à savoir quelles sont les règles qui restent dans mon coin échec. Mat ma chute, ça chuchote dans la bête. J'ai la pupille qui brille et perd mon œil qui tique, j'ai la trouille. Je suis mouillé jusqu'aux couilles, louange au seigneur, la fouille est pète, putain.
On a été interrompu donc dans la magnifique discours de Marvolo, que toute la France nous envie, que toute l'Europe, que dis-je, nous envie. Marvolo, est-ce que tu pourrais reprendre l'intégralité de ce que tu disais sur le match? Parce que comme on a été coupé, je ne sais pas à partir de quand, si ça te dérange pas.
Il n'y a pas de souci, ouais, non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais refaire ça, donc le quart de finale. Donc de l'autre côté, donc en fait là je vous ai un peu dépeint le tableau. Donc d'un côté on a Espagnol Barcelone et le vainqueur jouera contre le vainqueur du match Mallorca Betis. Et maintenant de l'autre côté on a Valencia Sevilla qui se retrouve en quart. Valencia qui aura fait un joli match. On a vu Vicente qui a été énorme. Malheureusement ce qui est difficile c'est que le jeune espoir donc Jonathan Pereira avait tout pour qualifier le Racing Santander qui avait fait match nul un partout, mais il a tellement raté l'occasion qu'il a forcé les prolongations, et là en prolongation Vicente puis Joaquin on clôt la qualification. Sinon moi ce que je disais c'est que surtout après 3 ans ou 4 ans où ils avaient eu énormément de cagades du côté de Mestalla avec les erreurs donc de Santiago Canizares et Hildebrandt, ça fait quand même vraiment du bien aux supporters de Valence de voir un Renan, donc le gardien du Brésil Espoir, qui franchement joue un très 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 haut niveau. Et, c'est même s'enflammer, c'est pas grand chose parce que franchement il a vraiment offert la qualification le mercredi quoi.
Ouais. Donc ça voudrait dire peut-être des retrouvailles en demi Betis Sevilla.
Non pas du tout. Donc c'est pas en possible. Demi on pourrait avoir donc un des clubs de Barcelone contre le vainqueur de Mallorca Betis et ensuite Valencia Sevilla en quart contre le vainqueur de Bilbao Sporting.
Ah d'accord.
Donc voilà la transition est toute faite. Donc Sevilla Deport, Sevilla qui avait gagné sur sa pelouse 2-1 et qui colle 3-0 au Deport en 40 minutes. Anne, je sais que tu voulais parler de ce match.
Le Deport, c'est pareil que l'Atlético, c'est de pire en pire. C'est-à-dire en 3 matchs contre Sevilla, 3 défaites. Encore une fois, il y a eu des expulsions du côté de Sevilla. Il y a le gardien qui a été expulsé, mais ils n'y arrivent plus. Je sais pas. C'est le match en Liga qui les attend, c'est contre Barcelone, si je me souviens bien.
au Camp Nou.
Ouais, je crois que ça va être encore 3 points pour le Barça.
Ah ben j'en doute pas, hein. Je l'avais un petit peu dit, mais surtout que le Barça a fait tourner, mais pas le Deport, mais pas Sevilla, donc franchement il n'y a plus trop d'espoir. Hein. Sinon puis, juste à noter. Oui vas-y pardon. Vas-y.
Ouais, je voulais juste, c'est les 3 buts, c'est quand même 2 grosses erreurs défensives du Deport. Ils ont mis 2 poteaux aussi pendant le match, un sur penalty et un lors d'un corner, je crois. Ils prennent un but à la 2e minute. C'est Diego Capel qui fait un super.
La première même. Hein.
Ouais, la première minute, ouais, excuse-moi. Et voilà. Et ensuite, quand Palop est expulsé, c'est
Chevanton, ouais, qui va dans les cages.
C'est Chevanton qui vient et.
C'est la monégasque.
C'est lui qui commencera le prochain match de Sevilla.
Oui, par exemple, si vous pouviez me donner des nouvelles de lui un petit peu. Il est pas titulaire, je suppose, avec Canouté devant lui, largement non.
Non, franchement non. Son plus gros fait d'armes, c'est le sort de retourné qu'il a mis.
Le ciseau là, ouais, on l'avait vu il y a 2 saisons.
Le Real il y a 2 ans. Ouais. Mais sinon, franchement pas grand chose, quoi.
D'accord. Il s'est un peu perdu. Oui, donc Anne, si tu voulais finir là-dessus.
C'était juste pour c'est les erreurs défensives du Deport qui sont de plus en plus choquantes et un peu comme l'Atlético pour moi c'est exactement la même chose. Pourtant je les voyais plutôt bien placés en début, je trouvais que c'était l'équipe qui on croyait pas trop en eux mais ils s'en sortaient bien et voilà.
Je voulais vous demander un petit peu une question un peu générale sur cette Coppa, je sais pas si on l'avait déjà abordé dans une des dernières Europe, est-ce qu'elle est prise vraiment au sérieux par les clubs, et est-ce qu'on peut vraiment se fier aux résultats et en conclure des choses pour la suite? Comme quand je vois l'équipe de Barcelone, je suis pas un grand expert de la Liga, mais je vois la moitié minimum de l'équipe qui est remplaçante. Bon, ça ferait l'équipe remplaçante du Barça ferait le bonheur d'énormément de clubs, mais bon, ça n'empêche que je me demande si est-ce qu'elle est vraiment prise au sérieux. Marvolo, t'aurais un petit avis là-dessus ou...
Bah ouais, par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui l'ont pris au sérieux, d'autres non. L'exemple le plus criant de l'équipe qui l'a pris au sérieux, bon, donc c'était Gijón, parce que comme je l'ai expliqué, en fait, entre mercredi dernier et mercredi et hier, avant-hier plutôt, on a eu trois fois Sporting Valladolid. Donc deux fois coup sur coup où le Sporting a reçu Valladolid en coupe puis en championnat, et ensuite là encore une fois en coupe, mais c'était Valladolid qui recevait. Et donc l'entraîneur du Sporting, Manolo Preciado, avait dit à ses joueurs qu'en fait s'ils battaient le Sporting, s'il battait Valladolid, pardon, ben il rejouerait en championnat, et c'est ce qu'il a fait. Donc,
ouais.
Dans ce cas-là, ouais, effectivement, c'est très, très, très important, quoi.
Ouais, d'accord. Il y a une place qualificative en UEFA à la fin.
Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Ouais,
d'accord. Ok. Et il restait un match dont.
Non, il en reste deux, donc.
Deux.
Donc c'est justement Sporting Valladolid. Le Sporting qui a gagné 3 à l'aller, qui perd la 2-1 au retour, donc qualification du Sporting Gijón. Là, pour le coup, je peux pas trop vous éclairer parce que j'ai pas vu le match, et le résumé que j'ai vu était trop court, donc juste les buts.
Juste, mais, par exemple, plus généralement sur cette équipe qu'on connaît mal, Gijón. Est-ce que
Gijón. Le
Sporting Gijón, j'aime bien. Donc, est-ce que, parce qu'on les a vus se prendre des tôles monumentales contre le Real et contre le Barça, il me semble coup sur coup, ils ont été pris 12 ou 13 buts, je crois, coup sur coup.
Ouais,
et finalement, je vois qu'ils sont plutôt pas si mal classés que ça, et tu vois, ils sont en quart de finale de Coupe d'Espagne. Donc, est-ce que toi, tu auras un petit avis personnel sur ce club?
Ouais, c'est vrai que les performances de Gijón sont très bonnes. Non, mais.
Il faut l'excuser, il habite près de Dijon, donc ça lui fait penser un peu à la ville.
Ah, ouais,
je sais pas si la moutarde de Gijón est très connue.
Oh là là.
je vais laisser passer. Gijón, c'est sûrement le meilleur promu, hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais, avec Malaga. Donc.
Ouais.
Une équipe dur à battre, hein, faut pas croire.
Ils ont eu des performances contre le Real. Beaucoup de monde s'en foutu d'eux, et finalement, ils sont pas si ridicules que ça, loin de là, je m'aperçois.
Non, pas du tout.
D'accord. Ouais, et donc, pour finir sur le dernier match de cette.
C'était Bilbao-Osasuna. Victoire plus que méritée et logique de Bilbao, avec des buts marqués par Gabilondo et Vélez. Et puis, je crois que c'est la première fois qu'on a vu. La première fois qu'on a vu Llorente qui a joué un match assez mauvais, mais non, c'était facilement et bien réglé par Bilbao, qui a marqué deux buts en 17 minutes.
Osasuna paradoxal. Ouais, vas-y.
C'était pour juste revenir sur sur Gijón. Ils ont mal commencé avec, mais aussi il faut voir qu'ils ont commencé avec des gros clubs. Pardon, je m'embrouille un peu dans mes paroles.
Ils avaient perdu contre Sevilla 4-3, il me semble aussi.
Ouais, mais en fait, moi, je les ai jamais trouvés pourtant ridicules. Enfin, tout le monde disait bon, ils commencent par ils ont pas un super calendrier, mais on voit que finalement, ils sont pas si ridicules que ça.
Ouais. Et juste pour le dernier match dont tu parlais, Marvolo, Osasuna, vraiment paradoxal, parce qu'ils arrivaient à tenir tête assez correctement, on va pas dire tenir tête assez correctement au Barça il y a 3 jours avant. Et finalement, là, tu me dis que l'Athletic Bilbao a finalement eu une victoire méritée, ouais. Facilement acquise.
Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, parce que même si le score était de 3-2, faut pas oublier que déjà Osasuna est dernier. Et puis surtout, pour ceux qui ont vu le match, le Barça aurait pu marquer 3-4 buts en première mi-temps. Et à partir du moment où ils se sont fait rattraper, ben ils ont enlevé le bleu de chauffe plutôt, et puis ça s'est réglé en 10 minutes. Donc ouais. Non, c'est surtout le Barça ce jour-là qui s'est un peu relâché, quoi.
Ouais, d'accord. Ok, bon, merci bien pour cette partie de la coupe. Et je vais pas me prononcer sur l'après du programme Liga, puisque tout à l'heure tu m'as contredit, Marvolo. Je te laisse annoncer la suite et ce que vous allez aborder à présent.
Ouais, évidemment, c'est le sujet d'actualité. C'est donc la démission de Ramon Calderón et je vais laisser Anne plutôt expliquer ça.
On va parler de ça. Donc, il faut commencer par l'assemblée qu'il y a eu en décembre. En décembre, il y a eu une assemblée parce que les sociaux demandaient la démission de Calderón. Il y a eu un vote.
Alors, juste, je te coupe, Anne, parce que juste, tu peux nous rappeler comment est géré un petit peu le Real, comme Barcelone et Athletic Bilbao. Il me semble, c'est assez spécial.
Ouais, en fait, il y a des élections présidentielles. Donc, c'est les sociaux qui sont depuis 10 ans, je crois, au club qui peuvent voter. Et ensuite, un président ne plaît pas, on peut faire des assemblées avec, pareil, des sociaux qui sont depuis un certain nombre de temps au club qui décident de voter.
Oui, un peu comme en politique, quoi. Ça peut s'assimiler comme ça. Oui. Ok, merci. Oui, donc là, ils étaient pour... c'était comment acquiescer les comptes ou je ne sais plus quoi, cette fameuse réunion.
Il y avait une réunion le 7 décembre. Ça a été voté entre guillemets à main levée, c'est-à-dire avec un carton oui ou non. Et Calderón a gagné avec 47 voix le fait qu'il pouvait rester au Real. Et Marca a Calderón a truqué les votes. Donc là, à partir de là, il y a le Real qui fait une déclaration comme quoi va y avoir une enquête. Le lendemain...
Marvolo achète le journal.
Le lendemain, il y a Marca qui dit qu'en fait, des personnes qui n'étaient pas des sociaux ou qui l'étaient pas depuis un certain temps sont venues voter alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc là, on a une déclaration magnifique de Calderón qui dit qu'il n'est au courant de rien, que ceux qui ont fait ça vont être punis. Donc des personnes sont virées. Moi, j'appelle ça des têtes de turc, on va dire. C'est en disant que c'est le lendemain, quelqu'un au club a été en silence. Aujourd'hui, il hésitait entre démissionner ou pas. Il y en avait qui lui disaient de démissionner, il y en a qui lui disaient de pas démissionner. Et il annonce aujourd'hui sa démission, les larmes aux yeux, en disant qu'il a la conscience tranquille, qu'il s'en va la tête haute, les mains propres. Et que c'est l'injustice qui a gagné dans cette affaire.
Ouais. Moi, je vais juste aller un peu plus loin. Je vais expliquer avec un peu plus de détails. Donc, le principal inculpé, c'est le dénommé Nanine. C'est son surnom. Je retrouve plus son nom. Bref. En gros, c'est un gars qui travaille un petit peu dans l'entourage du. Il fait les public relations, donc les relations publiques du Real. Et c'est ça, en gros, ce qu'il avait dit, c'est que, comme l'a expliqué Anne, c'est les compromisarios, qui peut se traduire par grands électeurs. Donc, vous pouvez faire le parallèle avec les élections américaines qu'on a eues récemment. Donc, en gros, il a convoqué 8 amis à lui pour rentrer dans cette assemblée-là et voter donc pour Ramon Calderón. Alors, il y a quand même des contradictions. Donc, un petit peu ce que je disais à Anne avant, c'est que son explication en elle-même n'est pas forcément elle est crédible, quoi, on peut y croire, mais il y a trop de coïncidences et trop de en plus il y a des choses un peu inexplicables. Donc en gros, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Il a dit que les donc 8 étaient venus voter, ils se sont tous mis ensemble et lui il a expliqué que si, mais en fait non c'est pas des compromisarios, mais ils sont tous de la petite famille, donc soit le père, soit l'oncle, soit qui sont compromissarios. Donc en gros, c'était des votes par procuration. Jusqu'à présent, on peut y croire encore. Mais ensuite, il dit que ils se sont mis tous ensemble pour que ça fasse un bloc, donc ils paraissent un peu plus nombreux. Ça encore, ça paraît plausible, mais là où il y a le problème, c'est que quand tu rentres dans une assemblée des socios, on vérifie ta carte d'identité. Alors, il faudra m'expliquer comment lui, qui n'a apparemment rien fait d'illégal, peut réussir à faire passer 8 personnes, donc même pas une ou deux, quoi, 8 personnes, coup sur coup, avec des DNI trafiqués, parce que de toute façon, c'est pas leur, c'est la carte de membre de socio n'est pas à eux. Et donc voilà, il y a ce nombre. Puis ensuite, on a Marca, donc qui se fait un plaisir de dire, reprendre une déclaration de notre cher Calderón il y a 2 jours, qui disait. Nanine n'est pas. Nanine, c'est un nom ridicule, c'est un surnom ridicule, mais bon. Ce n'est pas un ami à moi, ni de mon cercle de confiance. Mais on a ressorti une ancienne déclaration du 2 juillet 2006, juste après qu'il ait gagné les élections, où il dit que rien n'aurait été possible sans l'aide de Nanine. Donc, il se fout un peu de la gueule de tout le monde. Et puis, toute façon, c'est assez louche, quoi. Puis il y a ça, et puis aussi l'affaire de Barsk, c'est la deuxième tête de Turc qui voulait partir, et puis ils l'ont rétabli plutôt dans le club, moyennant un salaire de 600 000 euros par an. Donc, c'est loin d'être juste des coïncidences.
Donc, Anne, tu veux dire quelque chose? Oui, il y avait Anne, ouais.
Ouais, c'était encore sur cette histoire, j'aimerais juste, Marvolo, que si tu pouvais m'apporter un peu plus d'informations. J'ai cru en comprendre qu'un journaliste de Cadena Ser avait dit que Calderón, je crois, l'avait appelé pour lui demander de venir voter.
Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est des élections libres, sous une certaine condition. Faut juste avoir un quart de sociaux et, comme tu l'as dit, être depuis un certain nombre d'années, je sais pas exactement non plus. Mais donc, que ce qu'il lui demande de venir, c'est pas ça qui est, c'est pas répréhensible en soi si le journaliste en question avait été en règle. Mais là où il y a le souci, c'est que c'est un peu ce qui fait débat et qui fait un peu rire tout le monde en Espagne, c'est que parmi les 8 amis de Nani, donc Mariano Rodriguez Barrutel, il y avait un qui était socio de l'Atleti. Donc en gros, c'est comme si pour une élection du Barça, il y a des gars de l'Espagnol, quoi. Franchement, ça devient un peu ridicule, mais bon, c'est pas une surprise, hein. Et puis sa fin de règne avait sa troisième année, donc était comme franchement ridicule, parce que déjà il y avait l'affaire de Lasana et Untelar où il nous expliquait qu'en fait il savait très bien qu'il pouvait, il connaissait la règle qui lui permettait d'inscrire qu'un seul des deux, mais qu'il le tentait quand même. Donc en gros, il y avait énormément de choses. Donc, il y avait trop de flottement au Real Madrid. Si on ajoute à ça le cas Schuster, qui était vraiment un pari personnel. Si on ajoute à ça celui de Di Santo, donc c'était celui qui faisait le préparateur physique qui a blessé tout le monde. Donc franchement, c'était très très compliqué pour lui. Et puis par rapport à ce qu'il disait hier, il disait qu'il voulait pas démissionner parce que c'était à son sens une attitude de traître et de lâche. Mais en fait, ce qui l'a convaincu, c'est qu'on lui a dit que valait mieux encore qu'il convoque donc des élections en juillet ou en juin, et que dans le même temps, qu'il démissionne, comme ça vaut mieux pour que le Real Madrid, pendant ces six mois, et un environnement de campagne électorale plutôt qu'une guerre civile, parce que tant que Calderón ne partait pas, il y aurait toujours des détracteurs.
Okay. On a une idée déjà de qui pourrait le remplacer à l'issue de ces 4 mois.
En fait, là, pour les 4 mois, c'est Vicente Boluda, donc c'est un des vice-présidents. C'est un peu comme tout le monde, quoi. C'est un gros impresario qui fait dans le transport des marchandises maritimes, des trucs comme ça. Mais sinon pour juin, on sait pas, mais l'ombre de Florentino Pérez est en train de planer sur Real, quoi.
Ouais. C'est sûr.
Donc,
ouais.
Anne, ouais.
Donc pour revenir aussi sur Calderón, il faut savoir qu'on l'avait accusé aussi de prendre de l'argent qui appartenait au Real Madrid pour le mettre directement dans sa poche. Donc c'est pas la première fois que son honnêteté est remise en cause. Au jour d'aujourd'hui, il est accusé quand même d'avoir trompé les sociaux du Real. Il pouvait pas rester. Pour moi, c'était impensable qu'il reste. Ça veut dire qu'on n'en a rien à faire des supporters du Real, ça veut dire que c'est lui qui décide de tout. Donc il fallait qu'il parte. Maintenant, le fait que lui parte et que toute la junta directiva reste, ça me plaît pas forcément. Sinon, dans les noms, il y a Eugenio Martinez Bravo, qui est le président de Plataforma Blanca, un groupe de sociaux, qui a à peu près 40 ans, je crois, et qui compte se présenter. Et qui demande à ce qu'il y ait des élections un peu plus rapidement, parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas d'élections rapidement, ça veut dire que pendant 6 mois, on attend, et on va prendre du retard sur les autres clubs qui peuvent penser à l'équipe qui vont mettre en place l'année prochaine. Il y a aussi, j'ai pas son nom en tête, je crois que celui qui vient d'abandonner Dakar, l'Espagnol, qui compte aussi peut-être se présenter.
Ouais, parce que surtout que Carlos Sainz, c'est pas la première fois ni la dernière fois, quoi. Il a déjà fait 2-3 tentatives, mais pour l'instant ça a raté. Et mais ça m'étonnerait pas non plus de voir Lorenzo Sanz réapparaître dans pas longtemps, hein.
Ouais.
Un ancien président du Real. qui bah donc franchement il y a trop de et il y a beaucoup trop de choses bizarres quoi à Madrid en ce moment.
Et Florentino Pérez, est-ce qu'il y aurait une possibilité de revoir Zidane au Real Madrid? Non, ben comme en fait, il l'avait dit souvent dans ouais, ouais, avec des jeunes plutôt avec l'encadrement des jeunes comme il l'avait dit une fois Zidane.
Bah ouais, le truc c'est que bon bah Zidane a dit que lui ça l'intéressait pas, mais on sait tous que Zidane c'est ça le dérange pas de changer ce qu'il dit. Donc ouais moi je doute pas que si Florentino Pérez venait à revenir, il reviendrait parce qu'il faut savoir que lui c'est un mec qui s'est beaucoup gargarisé plutôt de cette expression des galactiques. Il a des liens très forts avec Ronaldo et Zidane notamment, comme on a pu le voir lors du match de charité à Fès au Maroc. Pour Pérez surtout, c'est qu'il aurait déjà un arrangement avec pour Cristiano Ronaldo la saison prochaine, et ça pourrait faire peser la balance.
Bah
exactement, en fait c'est ça. En fait, Pérez il vient avec Cristiano Ronaldo avec lui, et il vient avec Zidane comme publicité entre guillemets s'il se présente. Et Martinez Bravo, celui qui compte se présenter, a dit que c'était légitime que Pérez tente de revenir, mais que lui, dans sa politique, c'était pas de faire venir un joueur comme Cristiano Ronaldo, mais de faire venir un joueur qui est le futur, un futur Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il va plus s'intéresser aux jeunes.
Ouais, non, mais c'est du vent, tout ça, parce que, mine de rien, faut pas oublier que Florentino Pérez, son slogan, c'était Zilanes y Pavones, donc, des superstars et des gars de la cantera. Même si, faut pas oublier que mine de rien, sous son air, même si ils ont pas tous été très bons, on a quand même vu du Mignan Bres, on a vu du Raúl Bravo, on a vu Pavón, on a vu Olala, Ruben, donc on a vu tout plein de gars qui sont sortis de la cantera. Donc à mon avis, s'il base son élection sur ça, il est mort quoi. Ouais. Mais de toute façon, c'est pour Calderón aussi. Il faut pas oublier qu'il avait déclaré il y a quelque temps que toutes les manœuvres étaient en ce moment, que Florentino Pérez faisait beaucoup de manœuvres en sous-marin. Bon, ça m'avait pas spécialement surpris parce que c'est loin d'être impossible. Mais bon, c'était assez maladroit de sa part et franchement, surtout quand on sait qu'en plus de ça, c'est qu'en plus des soucis qu'il y a, le recrutement est loin d'être bouclé. Et que surtout, il y a une rumeur qui est en train de grossir de plus en plus en ce moment, c'est que Chelsea va aller à fond sur Juan de Ramos en fin de saison. Ça laisse penser que laisse présager des temps très difficiles à Madrid.
Ouais. Anne, tu penses que Juan de Ramos a quand même un avenir au Real Madrid plus long qu'une demi-saison?
Oui, parce que Juan de Ramos, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il s'engage jamais plus d'une saison. Et si ça se passe bien, prolonge ses contrats. Donc si ça se passe bien, je pense qu'il restera. Je vois pas pourquoi
il va bien se passer
et que tout se passe bien.
Mais est-ce que ça va bien se passer?
Oui, je pense. Mais j'espère surtout, mais on verra bien. Il y a aussi la rumeur Benitez au Real.
Il y aurait Benitez qui a pas prolongé à Liverpool.
Ouais, c'est ça. C'est que sans vouloir trop empiéter sur la partie Premier League, en gros, financièrement, l'accord est total entre Benitez et les propriétaires de Liverpool. Mais là où il y a le souci, c'est sur ses prérogatives sportives. C'est qu'en gros, il veut devenir vraiment un manager. Donc, il veut gérer l'équipe première, il veut gérer les transferts, les arrivées comme les départs. Il veut aussi gérer le centre de formation. Donc, en gros, c'est un projet très ambitieux. Et moi, je pense qu'il est capable de faire tout ça, mais les dirigeants de Liverpool pensent que c'est trop pour lui. Donc,
t'as exactement bien résumé la situation. De ce que j'en ai eu écho, c'est exactement ça. Une ambition un petit peu trop importante pour les dirigeants de Liverpool, qui serait plus dans une division des tâches un petit peu. Alors que Benitez a vraiment l'envie de tout contrôler, vraiment. Et ça ne plaît pas forcément aux dirigeants de...
Mais en même temps, je pense que c'est un peu dû avec la guéguerre qu'il y a en ce moment avec Alex Ferguson. Et il voit aussi que Wenger a un peu le même statut. Donc il se dit, bon ben, si les grands concurrents ont un peu la carte blanche sur tout le secteur sportif, pourquoi moi non? Lui, le truc, c'est que ce qu'il veut, c'est que il réclame pas forcément de tout gérer lui-même, mais de déléguer, donc à la limite de placer des hommes à lui. Après, c'est sûr que c'est quand même un bon moyen de pression sur les dirigeants de Liverpool, parce que là, il deviendrait vraiment le big boss. Et à mon avis, ça marchera pas, mais faut pas non plus écarter l'hypothèse que c'est une tentative de déstabilisation du Real sur Liverpool parce qu'il se joue en huitième. Hein. Ça, c'est faut pas l'oublier non plus.
Mmh. Ouais. Donc oui, donc sur cette rumeur, toi, Marvolo, est-ce que t'avais un petit sur la rumeur Benitez au Real, est-ce que t'avais un petit avis en plus de non, tu penses que est-ce que tu penses vraiment que c'est plausible, toi?
Bah oui, oui, c'est plus que plausible parce que. Là, si on veut, c'est pas juste une rumeur entre guillemets, parce que on connaît exactement la situation de Benitez à Liverpool. On sait exactement ce qu'il en est. On sait qu'il est pas content, qu'il veut pas renouveler son contrat s'il change pas certaines conditions. Donc c'est plus que possible, quoi. Ça c'est sûr.
D'accord.
Mais bon, quoi. Du côté de Real Madrid, bon, et l'autre rumeur qui enfle aussi, c'est celle de Valencia, donc l'ailier de Antonio Valencia, l'ailier de Willian, qui pourrait signer chez eux. Mais là encore, c'est très 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 lent, quoi. C'est le problème, c'est que le Real Madrid n'est pas dans une situation sportive qui lui permet de trop tergiverser. C'est ce qu'ils font. Donc, faut voir comment ça va se tourner. Hein. Donc, je vais enchaîner avec la question de Khaled. Donc, comment va finir le Real Madrid cette saison en Liga et en Ligue des Champions, selon vous? Bon, moi, je pense que tout le monde sait ce que je pense, donc je vais laisser Anne répondre.
Alors moi, je pense que ça va être un avis complètement opposé au tien. C'est-à-dire, je pense que le Real peut gagner la Ligue des Champions. La Liga, ça va être difficile, mais la Ligue des Champions, j'y crois énormément cette année.
Eh ben, pas moi. Pour moi, c'est déjà mort le championnat et ils vont se faire torcher en huitième.
Ouais, donc oui, c'est un avis assez figé de ta part, Marvolo. Mais bon.
Sinon, ouais, juste une info.
Pour, en ce moment.
Oui, une info d'ailleurs sur le Real Madrid. Sur le Real Madrid, bon, oui, c'est Casillas pour le FIFA Player. Ils ont sorti récemment justement tous les joueurs qui ont voté pour Iker Casillas. Et parmi les noms, il n'y a pas vraiment des joueurs. Bon, il y a Drogba qui l'a mis 3e, Vieira pareil, Cannavaro 2e, Shay Given, bon, forcément, le gardien de l'Irlande l'a mis 1er. Mais sinon, les autres, on voit que quand même, pour un gardien comme lui, il a quand même des voix d'Afrique du Sud, de Bulgarie, du Burundi. Franchement, ça me surprend un peu, quoi, le détail des votes. Hein.
Ouais. Bon. Parfois. Mm. C'est dommage parce que c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Ouais.
Sinon, justement, par rapport à Kaka, je voulais savoir si la rumeur au Real Madrid, elle est.
Oui, bah justement.
On en parle parce que moi j'ai vu que sur Marca il disait que la Gazeta en parlait.
Ouais, bah justement, ouais, je voulais finir la partie Liga par ça. Donc exactement, surtout que le retour de Florentino Pérez accélérerait les choses puisque lui qui avait entamé des négociations, de ce qu'on nous avait dit, c'est juste des rumeurs en fait par rapport à la situation actuelle, des hypothèses par rapport à la situation actuelle du Real Madrid, mais je pense réellement que quand on voit Kaka qui a un désir de partir comme l'a dit mais pas à Manchester City, si le Real venait à se greffer là-dessus, alors là ça pourrait devenir vraiment une rumeur parce que là je pense que il pourrait y avoir des deux côtés un accord, la Kaka serait d'accord, ainsi que les dirigeants. À savoir si le Real est capable de mettre presque 100 millions d'euros sur la table. Pour l'instant, ça reste au stade de rumeurs, hein, on est bien d'accord.
D'accord. Bah, je m'en doute un petit peu parce que bon, c'est pas vraiment les mêmes sommes, quoi.
Ouais.
Juste deux, trois petites dernières infos, donc. comme quoi, c'est vraiment les hommes à la mode. Il y a une délégation de l'Atlético Madrid qui va aller à Dubaï donc pour parler avec ce fameux Mansour Ben Zayed Nahyan pour justement faire une demande de sponsoring mais presque en fait ils vont offrir le nom du stade au cheikh des Émirats contre 10 millions d'euros plus ou moins donc en gros les pétrodollars ça fait rêver un peu tout le monde. voilà quoi. Et puis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une phrase moi qui me fait vraiment rire, c'est que il y a les dirigeants qui sont arrivés pour négocier pour Agüero et tout ce qu'ils ont trouvé mieux à dire les dirigeants de l'Atlético, c'est si vous voulez le prendre, payez la clause. Alors quand on sait l'ego des Arabes, si on ajoute à ça qu'ils sont pétés thunes et que la clause est à 60 millions d'euros, je pense pas que ça soit la meilleure chose à faire, hein, franchement. c'est même vraiment bête. Sinon, les rumeurs de transfert, bon, on a Luis Suarez, donc l'attaquant de l'Ajax qui est dans le viseur du Barça, et pour faire plaisir à notre ami Helvetia, mais je pense que ça ne le surprendra pas, Hindler, qui plaît énormément au Real.
Bah, il plaît un peu à tout le monde en ce moment.
Ouais. Ça, ne va pas finir à l'Udinese l'année prochaine. Hein. Je ne le vois pas finir à l'Udinese une saison de plus.
Ça, de toute façon, il y avait
juste sur le Real et Inter. C'est peut-être pas le club où je le vois le plus finir. Je le vois plutôt rester encore en Italie un peu. Et
à la Juve, moi, je le vois vraiment à la Juve.
Ça pourrait être très intéressant à côté d'un Sissoko, par exemple.
Bah oui, et puis c'est franchement le genre de profil qu'aime la Juve, c'est ces joueurs-là qui n'ont pas de nom ronflant, qui payent pas spécialement de mine, parce que je pense que maintenant, si on s'amuse à demander dans la rue, est-ce que vous connaissez Hindler, il y aura pas beaucoup de monde qui vont répondre, peut-être ils vont le dire, ah oui, le petit Suisse, là.
Même en Suisse,
le voilà, c'est ça. Au meilleur des cas, ils vont nous dire, ah oui, le petit Suisse, là, qui a l'euro, le chauve. Mais voilà.
Ouais, c'est sûr.
Alors que pourtant, c'est franchement un des tout meilleurs milieux de Serie A. Hein.
Ouais, et, ah ouais. Et comme tu le dis, c'est compatible parfaitement avec l'idéologie de la Juve, qui est exactement qui n'aime pas les gros noms comme ça, et un joueur très discret qui en fait pas trop, mais est très très efficace. Ouais, c'est vrai que. Mais bon, si on l'annonce du côté du Real, pourquoi pas non plus. C'est tout, Marvolo, pour tout ce qui est news.
Une petite dernière nouvelle, c'était. C'est Avram Grant qui dit que en fait il aurait absolument voulu garder Robben, donc en gros c'est une façon à lui de ressortir un peu sur le feu des projecteurs, parce qu'on sait que Juan de Ramos est loin d'être sûr l'an prochain, donc il a essayé de se placer un peu avec une interview assez bizarre, mais sinon voilà, c'était tout pour l'actualité.
Ok, je crois que Anne, tu dois nous quitter, il me semble, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et en fait,
si tu parles un petit peu plus vite, on le comprend aussi, hein, Arnaud.
Non, mais parce que je n'étais pas sûr de mon information. Tu vois, c'est comme l'histoire de caca, pas sûr de mes sources.
Donc voilà, je vais devoir partir et je vais juste dire que sur le site de Soccer, dans le topic Ligue 1, il y a la chaise de la vérité. Et en ce moment, c'est moi qui y suis, donc je peux répondre à toutes les questions, que ce soit sur la radio ou sur autre chose. Donc voilà.
D'accord.
Oula. En sachant qu'il y a que des mâles qui nous écoutent, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bonne chance à toi. Hein.
Allez, merci beaucoup Anne et bonne soirée à toi.
Bonne soirée.
Salut. Donc, merci à nouveau à Marvolo et à Anne, donc qui vient tout juste de nous quitter, pour cette partie Liga, comme toujours très complète. Et on va pouvoir enchaîner avec l'ami Pierrot qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Et sa chère Liga Sagres. Avec, il y avait quoi cette semaine en Liga Sagres? Il y avait du championnat, il y avait de la coupe, Pierrot, il y avait.
La coupe de la Ligue.
Ah, la fameuse. Vas-y, Pierrot, le micro est à toi.
Oui, deuxième journée du troisième tour de la coupe de la Ligue, hein, celle qui passionne toutes les foules et qui remplit les stades.
Juste, avant tout, j'ai des potes portugais, et puis il y en a un qui m'a parlé de la coupe de la Ligue, et j'ai cru comprendre que ça commençait en phase de groupe, c'est exactement comment le fonctionnement de cette compétition, si ça arrive à m'expliquer bien.
J'avais tout expliqué la semaine dernière.
Voilà, exactement. Si t'étais plus attentif, l'autre Suisse. Là.
Je tiens juste à rappeler aussi que cette coupe rapporte moins que la Peace Cup, tournoi de pression organisé par Ferré en Espagne. Il me semble que tu avais dit que c'était 4 millions pour le vainqueur.
Et encore. Je suis un peu sûr.
Ouais, alors que la Peace Cup, c'est le trophée Banania qui a remporté l'OL pour nous faire croire que c'est une équipe, que c'est un mastodonte mondial. Ça, cette année rapportera 6 millions aux vainqueurs. Donc.
Qui se déroulera en Espagne.
Tout à fait, mon cher Arnaud. Tout à fait.
On a déjà parlé la semaine passée, si t'avais un peu plus écouté.
Exactement, je confirmais les dires de notre cher Marvolo. Vas-y, Pierrot.
Ouais, je vais commencer par le groupe A avec la surprise. Et puis aussi le match comique, c'est... Nacional da Madeira qui recevait l'FC Porto, Il l'emportait 2-1 contre l'équipe Bet Porto avec un match que j'ai vu, ou plutôt ne pas vu, parce que, comment vous expliquer, il y avait la brume maritime de l'île de Madère qui recouvrait tout le stade. Et donc, bah, la caméra filmait, mais on voyait que le brouillard. Alors, on a eu un bon quart d'heure en fin de première mi-temps où on voyait à peu près ce qui se passait. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que bah, les joueurs eux-mêmes ne voyaient pas grand-chose, puisque j'ai vu plusieurs joueurs rater le ballon, ce qui est quand même incroyable.
Et cas, le match s'est déroulé quand même.
LVC, tu peux répéter, s'il te plaît ?
Trop de questions pour Pierrot en même temps.
T'as bien dû te marrer devant ce match.
Oui, bah, quand j'ai vu que le brouillard ne partait pas, je suis parti. J'ai vaqué à mes occupations.
Non, juste moi, c'était pour te demander, ils ont pas, l'arbitre n'a pas pris la décision pourtant logique et intelligente d'arrêter le match.
Selon un reporter qui était resté assidu devant sa télé, c'est-à-dire Miss FC Porto, qui m'a dit que apparemment le match avait été arrêté et qu'il avait
repris. Miss FC Porto, la personne qui vient dans le topic suisse depuis une semaine à peu près.
Ah, j'étais pas au courant.
Mais qui est en fait un garçon, donc t'excites pas, Valentin, ça sert à rien.
Non, c'est bien une dame.
Bon, continuons.
Ouais, donc 2-1. J'ai vu que, donc le troisième but, j'ai pas vu. Déjà le premier, je l'ai vu grâce au ralenti parce qu'il y avait un zoom. Et encore, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On voit un gars tirer dans les buts. Donc, ouais.
C'est énorme ce que tu me racontes.
Vas-y Pierrot. Voilà, donc, pas déconcentré par ces.
Donc, Porto qui en est réduit à devoir battre l'Académica Coimbra demain et donc qui doit espérer être le meilleur deuxième. Oui, donc sur le fait que le match n'ait pas été arrêté définitivement, je pense aussi que déjà la Coupe de la Ligue, c'est un peu une coupe qui sert à rien. Et donc le fait que Porto fasse le déplacement en avion à l'île de Madère, je pense que c'est pas raisonnable de faire rejouer ce match.
Ouais, c'est sûr. Ça fait un décalage de combien ? Tu sais à peu près ?
Je sais pas trop, non. Ouais, je sais pas il y a combien de kilomètres, mais il faut prendre l'avion.
Voilà du spécial, hein.
Marvolo, tu sais à peu près ton avion pour le Portugal à Madère ? Non.
Ah non, sur tout ce qui est l'espagnol, oui. Sur ma spécialité, oui. Malheureusement, c'est Pierrot.
Bon. Hugo, Coupe de la Ligue en portugais. Coupe de la Ligue portugaise. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui veut réagir sur ça.
C'est aussi intéressante que celle qui est en Ligue 1, enfin la Coupe de Ligue française. Parce que bon, la Coupe de Ligue française. C'est pas pour dire,
c'est
mais.
Inintéressante, c'est intéressante, je veux, il voulait ouais. dire.
Ouais, t'as bien dit.
Bah non, puisque elle n'offre pas de place en Coupe d'Europe.
Ah, en je plus, crois que.
Ah donc, c'est la Coupe pour fatiguer au plus possible les joueurs des clubs.
Non, parce que le but premier, c'est quand même d'offrir de l'argent et en plus de remplir les stades. Or, les stades sont vides.
Personne. Et il n'y a pas d'argent.
Bah, l'argent, disons que si c'est Porto, Benfica, Sporting qui gagne, ils s'en foutent un peu, je crois.
Ouais. Mais bon.
D'ailleurs, la preuve...
On arrive à consacrer un week-end sur un truc comme ça, sur une coupe comme ça.
Une semaine entière, puisqu'il y a la troisième et dernière journée de cette phase de poule ce week-end.
Oh putain! C'est mon Pierrot, on te soutient. C'est bientôt fini le week-end. Oui, donc vas-y, continue.
Voilà, donc pour preuve que ça intéresse pas, c'est quand même Stubal qui a gagné l'an dernier.
Stubal?
Ouais, voilà.
Stubal!
Juste une petite dédicace à mon pauvre Dan qui est en train de se faire dessus derrière ces manettes là. D'ailleurs, il est en train de péter un câble.
Dessus derrière. Faut la chercher celle-là.
Vas-y, Pierrot, finis sur le match qui va venir ce week-end.
Ouais, donc voilà, dans l'autre temps, la Académica Coimbra a battu le Vitória Setúbal, le tenant du titre qui est éliminé donc, puisqu'ils ont deux défaites. Donc le National da Madeira qui devrait remporter son dernier match et donc finir premier de sa poule et se qualifier. Donc FC Porto qui espérera finir meilleur deuxième. Donc, et au pire, je crois qu'il s'en fiche un peu. Hein.
Et juste une question, est-ce qu'au Portugal, la Coupe de la Ligue, comme en France où Domenech l'avait appelé la Coupe Machin, est-ce que la Coupe Portugal a un petit nom aussi? La Coupe de la Ligue portugaise?
Bah, la Carlsberg Cup, donc on va dire la Coupe de la Lumière.
Ouais, on a compris. C'est pour ça que tu la regardes encore, même quand il y a du brouillard dans ta télé. Quoi.
C'est vraiment la Carlsberg Cup dire,
Mais
faites la vaisselle, je la
ferai la mienne. Oui, mais
Non, mais c'est vraiment
c'est
la carte.
Mais c'est pas grave, c'est presque fini là. Mais non, c'est bon, arrête.
Bon, apparemment, il y a Dan qui se fait un petit plaisir, cochon. Non, mais pardon, c'était juste par rapport au nom que tu m'as dit, c'était Carlsberg Cup, c'est ça?
Ouais, voilà.
Donc en gros, vous êtes un truc de pochetron, pas de maçon, quoi.
Exactement.
Eh bien, tout ça, c'est bien.
Voilà. Donc je reprends mon sérieux et puis pour parler du groupe B où le Sporting qui fait 2 victoires en 2 matchs sur un magnifique but hors jeu, ce qui est la mode en ce moment. Comme on a pu le voir dimanche à Benfica Braga, qui était commenté en direct sur Génération Soccer, un grand moment assurément.
Et... Vraiment oui.
Oui, avec Pierrot West et ce très bon Marvolo, faut le dire.
Oui, qui était pas beaucoup présent. Hein.
Ah, parce que toi, t'as commenté ça?
J'étais en tant que consultant spécialiste, incompétent. Braga. Voilà, incompétent, on est d'accord.
Bah, Braga, ils sont un peu appelés les Marocains, donc. Voilà. Donc l'autre match, c'est Maritimo qui, avec son équipe B, a battu le Passos de Ferreira. Donc Maritimo qui se met aligné des équipes B, ça prouve vraiment que cette équipe est en train de grandir. Donc voilà, Maritimo qui va essayer d'être meilleur deuxième lui aussi. Mais bon, j'ai pas envie de faire des hypothèses sur qui sera meilleur deuxième, parce que vu le système et vu le peu de matchs, ça va vraiment être très serré et un peu aléatoire. Donc autant retenir que ceux qui vont être premiers, donc le Sporting qui aura juste à faire match nul. Et encore. Donc le groupe C avec Benfica, où Maradona est quand même venu voir un match de Coupe de la Ligue portugaise.
Putain mec, il est vraiment cramé hein.
Apparemment il y a de la bonne coke là-bas.
Ouais donc.
Non mais j'imagine qu'il allait voir Benfica non?
Oui bah oui voilà.
Et Benfica, par exemple, tiens, ça me donne une bonne question. Pour une fois intelligente dans la partie liée à Sagres, je signale. La bonne question, c'est est-ce qu'ils avaient aligné une équipe type ou semblant type, on va dire, avec, je sais pas, déjà 7 ou 8 titulaires?
Quelle est clairement l'intelligence. Hein.
Non, pas trop. C'est surtout l'occasion de faire tourner. Par exemple, Sydney qui avait pas joué contre Braga a joué. Donc c'est un match qui s'est fini sur le score de 4-1 où Olianens avait ouvert le score grâce à une superbe bourde de Moreto qui n'en avait pas fait jusque là et qui donc voulait se démarquer. C'est quand même incroyable que dans la Coupe de la Ligue, il faut que Olianens ouvre le score pour que Benfica se mette à réagir et enclencher le rouleau compresseur. Donc une égalisation de Nuno Gomes, ensuite un coup franc de Jorge Ribeiro pour l'avantage. Donc en parlant de Maradona, c'est Reyes qui était titulaire. Donc Maradona, il est un peu venu pour rien au début. D'ailleurs, il y avait des gros plans sur lui dans les tribunes où on voyait qu'il se faisait chier.
Di Maria a joué.
Il est rentré vers la fin. Ou d'ailleurs, c'est son meilleur match de la saison. Alors comme par hasard, Maradona vient le superviser et ça y est, il se bouge le cul. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir son but, je l'ai posté dans le bar de la radio.
Un beau but ?
Non, c'est bon, merci.
On pourrait s'en passer quand même, hein ?
Non, mais c'est vraiment... il a fait parler sa technique, hein. Il avait vraiment à cœur de faire quelque chose et ça s'est vu. Donc si je peux lancer un appel à tout abonné de Benfica qui nous écoute ou qui en connaît un, qu'il donne son abonnement à Maradona, qu'il vienne voir tous les matchs parce que vraiment Di Maria il fait
la provocation de Pierrot. Ouh alors là. Je serais pas content si j'étais un dirigeant.
Maradona, il est convalescent, hein. Tu vas pas lui infliger de la sagresse.
Non, parce que vraiment, Di Maria, il est vraiment moyen avec jusque-là. Et de voir
que vous l'avez payé combien il y a deux saisons 10 millions, non? C'est pas ça, un truc comme ça?
8. 8 millions.
Ouais, ouais, c'est 8 millions.
Ouais, c'est mais dans même. Tous les cas, même en étant mauvais, il y a toujours des clubs sur lui donc qui sont prêts. Donc je me fais pas de soucis sur
qui va investir 30 millions.
Chelsea puis le Real apparemment.
Non, le Real ils ont dit 10 millions et ils ont dit on va réfléchir. Bah, par contre Chelsea c'est je vous recommande de proposer ça à un autre club en bleu quoi.
Bah, disons que Di Maria s'est démarqué par son beau but disons que son beau but a un peu éclipsé la performance des autres joueurs en elle-même puisque avant Reyes qui a joué la majorité du match, il a pas marqué mais il a quand même fait une bonne chose sur tout le match. Lui aussi il a fait une action de grande classe qui pour son malheur a terminé sur le poteau mais lui aussi il était pas en reste hein. Donc c'est Di Maria, il a pas de chance dans le sens où le jour où il se bouge les fesses que Reyes est bon aussi. Donc bon bah on voit que le gars il a fait ça pour être sélectionné avec l'équipe d'Argentine. D'ailleurs Maradona a salué sa performance en disant qu'il avait fait 20 minutes brillantes.
Donc, il 20 minutes où il a pas pioncé je crois parce que
bref. Ouais. Donc oui, Di Maria qui célébrait son but avec un écriteau sur son torse que j'ai pas vu ce que c'était. Enfin bref, et il l'a dédié à Maradona son but et donc il était super content. Voilà. Donc 4 buts à 1, Benfica qui lui aussi deux victoires en deux matchs, a absolument besoin d'un point demain contre Belenenses, qui lui veut finir meilleur deuxième. Puisqu'ils ont 4 points en 2 matchs après leur 0-0 contre Guimarães. Donc Belenenses qui va avoir du mal à se qualifier mais qui va tenter sa chance. Et c'est vrai que Benfica, bon bah Olianen c'est comme une équipe de deuxième division, même s'ils sont premiers de deuxième division, c'est quand même
c'est une équipe de deuxième division hein.
Voilà, même si l'an prochain ils seront en première division, c'est quand même surtout à domicile, ça fait. Enfin, c'est surtout la manière où il a fallu que l'équipe réagisse pour s'imposer, parce que quand même Benfica était mis très en difficulté pendant les 10 premières minutes. Et bah c'est là qu'on se dit que soit c'est la Coupe de la Ligue, soit c'est Benfica qui continue à pas très bien jouer. Donc je vais faire le calendrier de ce week-end avec demain donc FC Porto, Académica Coimbra, Benfica Belenenses, et donc dimanche Vitória Setúbal, Nacional da Madeira, Sporting Portugal, Pasos de Ferreira, Maritimo Funchal, Rio Ave et Vitória Guimarães qui reçoit Olianense. Donc pour finir, je vais parler un peu de l'actu des petits clubs puisque j'en parle pas souvent. L'Académica Coimbra qui enregistre deux renforts. Amore Irinha, le défenseur central portugais qui a résilié son contrat avec les Roumains de Cluj. Donc il a signé gratuitement à l'Académica Coimbra jusqu'en 2011. Et ils enregistrent le prêt du jeune attaquant du Sporting Portugal, Carlos Salero, qui jusque-là était au Vitória Setúbal, mais qui n'avait que très peu de temps de jeu. Et donc l'Académica Coimbra, qui recherchait désespérément un attaquant, puisque c'est l'avant-dernière attaque du championnat, compte sur ce jeune joueur international espoir pour essayer de marquer plus de buts. Dans un autre temps, Belenenses qui va enfin pouvoir aligner sa recrue Tininho, qui a été recruté il y a un mois à West Bromwich Albion et qui n'avait pas reçu de lettre de sortie pour pouvoir jouer. Là, c'est fait, il a joué en Coupe de la Ligue. Donc peut-être une aide pour Belenenses qui essaie de se maintenir. Ensuite, autre recrue, c'est Alechouinge, Jean Sony, milieu de terrain haïtien, qui était à l'essai depuis une semaine à Alechouinge et qui donc a signé un contrat avec les Chouanges. Et donc une arrivée mais aussi un départ puisque l'attaquant brésilien Marquez a été prêté à à Vizela. Ensuite, résiliation de contrat à Naval où le Brésilien Saulo et Naval ont mis un terme à leur collaboration d'un commun accord. Le joueur faisait pas partie des plans de l'entraîneur et donc, bah, comme ce joueur était depuis 4 ans au club et qu'il avait été réprochable, il a eu le droit à une résiliation qui s'est très bien passée. Ensuite, un peu plus sexy, c'est les rumeurs sur Miguel Lopez, l'arrière droit de Rio Ave, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs à l'étranger, dont le Paris Saint-Germain et, selon la presse italienne, Palerme. Donc, je sais pas si Arnaud peut.
Pas du tout entendu. Enfin, moi, j'ai pas lu cette information. Il viendrait d'où celui-là?
De Rio Ave.
T'écoutes un peu ou quoi?
Non, mais. J'essaye de me rappeler. Non, j'ai pas entendu. Mais ça ne veut pas dire que. Ça a été pas très très relaté. Palerme n'est pas un club très médiatisé en Italie. Je pense que. Comme Rio Ave non plus au Portugal, je pense que ça peut être une affaire qui passe un petit peu. Sous le regard des médias, mais ça n'est pas impossible que ça se fasse, si tu le dis, Pierrot.
Ah, donc, ça serait selon Sport Italia.
D'accord. Ouais, non, mais oui, je connais la source, mais je peux pas te confirmer ça, effectivement.
Ouais, donc, c'est l'international espoir arrière droit.
Ah, c'est bon.
Donc, oui, c'est vraiment le meilleur arrière droit de ce début de saison.
Ah, bah, ça serait une bonne recrue pour Palerme qui a perdu Raghi. Ça, effectivement, en fait, ça pourrait être assez plausible compte tenu il y a un arrière droit qui est parti à Sampdoria, il me semble, dans ce début de mercato, et il pourrait appeler quelqu'un en renfort, donc ce transfert peut être effectivement plausible, mon cher Pierrot.
Voilà, donc le PSG, donc Palerme, qui suit un petit feuilleton qu'il y a vu en novembre sur comme quoi Benfica et le FC Porto l'auraient voulu au mercato. Donc ça fait au moins 4 clubs intéressés pour ce joueur qui ne devrait pas coûter très cher puisque j'ai fait quelques recherches et il semblerait que sa clause soit à 2 millions d'euros.
D'accord. C'est vraiment pas énorme. Bon espoir comme tu nous le vends.
Donc il risque vraiment de pouvoir choisir entre ces 4 clubs en tout cas.
Ouais. Okay.
Après je veux pas être chauvin mais pour moi Benfica est devant parce qu'ils sont portugais et puis que c'est ceux qui qu'ils recherchent plus un arrière droit que le FC Porto, donc pour moi Benfica est devant sur ce dossier, mais reste à savoir s'il sera intéressé par rapport à la concurrence qu'il pourrait rencontrer face à Machi Pereira.
Ok. C'était tout avec les petites infos, mon cher.
Un dernier transfert, oui. C'est le gardien de but espagnol Dani Malo, ou Dani Malio, je sais pas comment on prononce, qui était à l'essai à Falkirk et qui donc quitte le Sporting Braga pour les Écossais.
Ok, très bien. Très très bien.
Ouais, c'est Dani Malio et c'est pas Falkirk, c'est Falkirk.
Ouais, Falkirk.
Sinon, juste une petite info, c'est par rapport au football espagnol, mais pour parler de Ricardo, s'il continue, vous allez le revoir en sélection. Hein.
Ouais, bah...
C'est un froid, hein.
Bah, c'est à la limite, s'il est bon, ça me gênerait pas. Après, regardant le championnat portugais, je vois Beto de l'Échouinche qui me paraît bien en avance pour être titulaire dans les prochains matchs. Après, pour le poste de numéro 2, ça pourrait, si Ricardo fait de bons matchs en Espagne, pourquoi pas.
Bah, je peux te dire, franchement, il a fait 2 matchs depuis que Caston n'est plus titulaire et à chaque fois, il a été monstrueux. Et franchement, je pèse mes mots, monstrueux.
Ouais, bah, ça donc, oui. Donc, pour le deuxième, donc je dirais Ricardo, Eduardo de Braga et puis Moreira de Benfica. Après, s'il est vraiment énorme, comme tu le dis, je pense que Ricardo, de par son expérience, est en avance.
Mmh. Ok. Bon. Eh ben, très très bien, messieurs. Merci. Pour cette partie Liga qui a fait énormément rire notre cher Dan. Et on va pouvoir enchaîner et conclure sur le thème de la première ligue avec toi, Lick. Est-ce que juste un petit mot déjà sur le choc de dimanche dernier, Manchester-Chelsea, pour commencer.
Bah,
pour commencer, bah il y a qu'une c'est un match qui s'est largement que Manchester a largement remporté, qui sont largement dominés contre une équipe de Chelsea qui est en ce moment très pâle. Il y a en ce moment un petit problème avec Drogba, je sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment. À mon avis, Drogba, Anelka, ça marche pas vraiment comme on voudrait le croire. Enfin, personnellement, de ce que j'ai vu, c'était assez horrible. Ensuite, en milieu de semaine, Manchester avait un match en retard. Et ils l'ont gagné. Ce qui fait qu'ils sont maintenant à 2 points de Liverpool avec un match en retard contre Fulham. Donc, franchement, Manchester, pour moi, à la fin de saison, ils seront champions. Ils ont l'effectif pour, ils ont la mentalité pour. Ils ont un coach qui est une légende. Et voilà.
Ok. Bon, attends, je vais un petit peu reprendre ce que t'es allé un petit peu vite en besogne là, sur tous les résultats. Ouais. Donc, pour ce qui est déjà de la dernière journée, outre le match Manchester-Chelsea, où on reviendra un petit peu plus, je demanderai son avis sur Helvetia sur un point que j'avais relevé. Aston Villa, West Bromwich Albion, 2-1 pour Aston Villa qui a conforté sa 4e place en s'imposant dans le derby de la ville de Birmingham.
Oui. C'est un truc, cette victoire est assez quand même une victoire chanceuse, puisque c'est encore un but contre ce camp qui a permis à Aston Villa de gagner. Et donc Aston Villa, c'est une équipe qui est assez chanceuse quand même. Hein. Ça va être leur 6e but contre son camp et c'est encore grâce à...
Ils ont une très bonne équipe, hein, malgré tout. Ils ont de la chance, mais ils ont une très bonne équipe avec notamment les Agbonlahor, Young, au milieu de terrain, il y a Petrov, Barry. C'est vraiment une très bonne équipe qui va, à mon avis, finir dans les 4 premiers de championnat.
Je dis pas le contraire, mais ils ont surtout une bonne chance aussi. Il faut aussi le préciser.
Ouais, le talent aussi, tu vois, avec.
C'est vrai, justement, Agbonlahor a offert, on va dire, la victoire à la 41e minute en inscrivant le 2e but d'Aston Villa. Agbonlahor qui est vraiment de plus en plus considéré comme un titulaire en puissance en équipe nationale anglaise. Donc oui, ce qui était le derby, comme on en parlait l'autre fois, Helvetia, le derby de la ville de Birmingham entre Aston Villa et West Bromwich, qui s'est donc clos sur le score de 2-1. Un match où je vais pas revenir longtemps, Everton, Hull City, 2-0 pour les joueurs d'Everton. Donc pour une fois, ils ont pas tremblé sur leur terrain et se sont imposés face donc aux promus. Une victoire qui, on va dire, leur permet de conforter aussi leur place dans la première partie du tableau, s'il fallait faire un petit commentaire sur cette équipe des Toffees. Deux matchs ont été repoussés, Fulham Blackburn et Portsmouth Manchester City. Deux matchs qui ont été repoussés à cause des conditions météorologiques et des terrains praticables. Middlesbrough Sunderland, 1-1. Alves pour Middlesbrough et Jones pour Sunderland, les coéquipiers de Djibril Cissé. Donc pas de vainqueur aussi dans un autre derby de la journée entre Middlesbrough et Sunderland. Les Black Cats arrachent le point du match nul, plutôt illogique au vu du match qui s'est passé au Riverside Stadium de Middlesbrough. Le dernier match qui pouvait être considéré comme avec moindre importance, c'était Newcastle-West Ham. 2-2 à St. James Park. Owen et Carroll pour Newcastle, Bellamy et Cole pour West Ham. Et un nouveau but encore une fois de Michael Owen qui permet aux Magpies de faire le nul sur leur pelouse. Et après leur lourde défaite 5-1, ça va un petit peu mieux, on va dire, pour Newcastle, même s'ils n'ont pas 5-1 contre Liverpool, je rappelle, ils n'ont pas offert une victoire à leur public. Un petit mot, qu'est-ce que t'en as pensé, Lick, de Arsenal Bolton, Bentner qui marque en fin de match, c'était laborieux.
Ouais, très laborieux, sans la brigade, c'est un peu dur. Hein. Et on voit très bien son absence qui manque de créativité. Un petit Nasri n'a pas été très mauvais, 20 personnes plus.
Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu penses que un mec comme Arshavin, ça peut être vraiment bien pour Arsenal?
Lui, il peut apporter, mais bon, c'est sûr que s'il vient, ça sera un plus pour Arsenal. Après, reste à savoir s'il s'intégrera vite ou s'il aura le physique suffisant pour s'imposer en Angleterre.
Ouais. C'est sûr. C'est ça un petit peu la question sur Arshavin. Donc, Donc Arsenal quand même qui s'impose. Et le dernier match de ce samedi, c'était à 18h30 Stoke contre Liverpool. À l'aller 0-0 Anfield. Là, Liverpool n'a pas été capable de trouver la faille dans la défense de Stoke et il réalise la mauvaise opération en refaisant 0-0 au retour. Très très grosse contre-performance, alors que moi j'annonçais Liverpool comme c'était vraiment une journée pour Liverpool, puisque Manchester et Chelsea s'affrontaient, Liverpool qui se déplaçait sur une petite équipe de Stoke, faut le reconnaître, et finalement ils s'en sortent avec un nul qui est vraiment vraiment une mauvaise opération, tu crois pas, Lick?
Ouais, bah surtout qu'ils font des matchs nuls contre des équipes qui sont largement à leur portée.
Ah oui, 17ème Stoke City.
Ouais, ils avaient fait aussi un match nul contre Hull City, contre West Ham. Donc à force, ce sont les points-là qui vont coûter à la fin de saison et qui vont certainement leur enlever le titre.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'autre match du dimanche, c'était Wigan Tottenham. But de Figueroa pour toi, Marvolo. C'est une petite pensée pour Wigan. Et ça a été un but inscrit dans les derniers instants du match, presque dans le temps additionnel. Et Tottenham qui n'en finit pas de descendre. En revanche, Wigan qui est vraiment une très très belle équipe et se pointe à la 7ème place du classement. Ce que fait l'entraîneur, c'est vraiment très 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 bien. Il m'impressionne un petit peu de semaine en semaine, les joueurs de Wigan. Donc pour finir cette journée, donc c'était Manchester City. On va en revenir un peu plus que ce que tu as dit, Lick. Comment qualifier ce match? Une première période dominée, mais pas trop, par les joueurs de Manchester. Et après, une équipe en seconde période, une équipe de Manchester impressionnante. C'est le mot vraiment pour qualifier la performance des joueurs d'Alex Ferguson. Après ce match, il possédait encore deux matchs en retard. Il n'en possède plus qu'un, puisque tu as parlé du match de mercredi, on en reviendra aussi. La machine mancunienne, elle a quand même connu de sérieux bugs, si on peut dire, en début de saison. Et là, depuis quelques semaines, je ne sais pas ce que tu en penses, elle semble vraiment avoir retrouvé l'intégralité de ses moyens et de ses qualités. C'est vraiment vraiment impressionnant. Chelsea, ils ont vraiment pas apparu, comme tu l'as dit. Il y avait une seule équipe sur le terrain. Manchester, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais au cours de leurs 5 ou 6 derniers matchs, ils ont inscrit ils ont inscrit autant de buts que le 3-0 qu'ils infligent à Chelsea. Donc là, je me dis que c'est peut-être enfin la saison de Manchester est peut-être enfin lancée, quoi.
Surtout que c'est comme toutes les saisons à peu près, ils ont du mal au début, mais après, une fois qu'ils sont lancés, c'est quasi impossible de les arrêter. Et là, je crains le pire pour les autres équipes.
Ouais, ouais. En plus, moralement, je pense qu'ils ont vraiment mis un coup sur leurs adversaires.
Surtout quand il y a les cadres qui sont en forme, les Ryan Giggs, les Wayne Rooney, même s'il est blessé. C'est une équipe qui va monter, mais...
Ouais, c'est vrai. Ça a quand même... L'équipe de Ferguson, de Scolari, a été vraiment décevante, on peut le dire. Et Manchester, on peut dire aussi qu'ils ont effacé un peu tous les doutes qu'on avait en eux, puisqu'on disait Manchester, c'est plus comme l'année dernière, ils sont dépendants de Cristiano Ronaldo. Ce qui est vrai, parce que on a revu... un retour en forme de l'équipe qui coïncidait avec une grande performance du Portugais. Tu crois pas, Lick?
Pas que de Ronaldo, aussi de Rooney, parce que Rooney.
Ronaldo a été énorme, hein. On lui a refusé d'ailleurs deux buts, valables.
Ouais. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour ses stats, surtout.
Ouais. Mais bon, c'est pas très grave, mais bon. Il a été quand même très très fort.
Ça, je te dis pas le contraire, mais l'absence d'un joueur comme Rooney, ça va se sentir, quoi.
C'est sûr, ouais. Il a d'ailleurs fait en plus une frappe sur le poteau de Petr Cech. Et il a vraiment fait son meilleur match depuis le début de la saison, ça, sans aucun doute. Donc Liverpool a vraiment du souci à se faire au sortir de ce match. Un petit mot du côté de Chelsea et surtout sur le duo Anelka-Drogba. Pourquoi il n'a pas été aligné, à ton avis, Lick? Parce que ça, c'était quand même une des attentes du côté de Chelsea. Il y a quand même beaucoup de techniciens qui donneraient beaucoup justement pour avoir un duo pareil en attaque.
Ah bah, ça c'est sûr, mais à mon avis, c'était pour avoir un milieu de plus, c'était pour consolider le milieu, pour donner plus de pas d'espace, mais au final ça a pas marché quoi. Et
finalement, c'était que Drogba qui était, il y avait que l'Ivoirien sur la feuille de match.
Voilà, c'est décevant. Bah, à mon avis, Scolari, il a dû comprendre que Anelka Drogba ça ne marchera pas, puisque le peu qu'on les a vus ensemble, ça marche pas franchement.
Ouais, c'est sûr. Avec en plus un choix assez bizarre de la part de Scolari, puisque on entendait l'ancien Marseillais qui disait vouloir jouer avec Anelka, et finalement à quelques, il me semble la veille du match, on entend Scolari nous dire que l'un est bien plus près que l'autre, en l'occurrence l'Ivoirien, et alors que ce même Ivoirien déclarait, comme je l'ai dit, vouloir jouer avec Anelka. Donc c'était assez contradictoire de la part de Scolari, qui se décrédibilise un petit peu en plus auprès de ses joueurs. Et a même appelé à la rescousse en seconde période, Nicolas Anelka n'a rien pu faire et n'a pas pu inverser la tendance, ça c'est sûr. On va dire aussi que c'est un petit peu difficile de parler sur cette association, puisque lorsque le Français évolue avec Didier Drogba, il évolue sur un côté, tu me contrediras pas, dans une attaque à 3. Donc c'est pas le meilleur moyen de faire la décision.
Hein. Il est mauvais sur les côtés Anelka, faut pas se cacher.
Non mais c'est alors ça, il faudrait peut-être revoir le système quand on joue avec eux deux devant, il me semble.
Ouais.
Du côté de Chelsea.
On a vu du côté de Chelsea, on croit que ce club a une histoire, une réelle histoire, alors que ce n'est pas vraiment le cas, le 4-5-1 n'est pas imposable. Quoi.
Comme, d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a dit ma meilleure place se situe dans l'axe, hein, ça c'est sûr. Même lui, il l'a reconnu, enfin bon.
14 buts, hein, pas mal quoi.
Ouais. C'est sûr. Et puis finalement, dans ce match-là, noyés dans le naufrage de leur équipe, ils n'ont jamais su se trouver. Et en plus, alignés sur un côté, enfin, ça a été un pari perdu en plus de Scolari, un de plus quoi cette saison, qu'il décrédibilise encore une fois. Un petit mot juste sur Ronaldo. Bah, il a remporté le trophée FIFA du meilleur joueur du monde 2008. Quoi. Voilà. Bon, bref. Wow. C'est une petite information pas très importante. Avant de revenir sur les quelques informations transfert, un petit mot de la Première Ligue, de ce qui se passait surtout mercredi. Et après la claque donc contre Manchester, les joueurs de Chelsea se sont donné un peu d'air, ils ont remporté 4-1 en cup, le match qui les opposait à Southend, une équipe de division 3 anglaise. Donc ils sont qualifiés après le match nul qu'ils avaient fait à l'aller. Ma foi, c'est juste un petit peu, je dirais, repousser pour mieux sauter au niveau de la crise, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un malaise profond avec Scolari, non?
Ouais, surtout que le vestiaire a l'air d'être divisé en deux. Et que, voilà, quoi, c'est dur pour Scolari de gérer cette équipe.
Ouais, c'est sûr. Avec noté qu'il y a vraiment eu le brouillard qui s'est invité à la fête au début de match. Pierrot, tu vois qu'il n'y a pas qu'au Portugal, donc ne désespère pas. Et en seconde période, c'est là où Chelsea inscrira 3 buts sur les 4 qui lui donneront. La victoire, donc l'essentiel est acquis, et une qualification face à une équipe de seconde zone qui a quand même tenu en échec les Blues. Mais bon, voilà. Je m'avance pas trop sur ce match parce que je trouve qu'on peut vraiment pas en tirer des conclusions pour ma part. Valentin s'en va. Donc,
au revoir
monsieur Valentin, et à très bientôt.
Bonne soirée.
Oh, bonne soirée.
Va te coucher, mon petit.
C'est de beaux rêves, hein.
Alors, donc, on va continuer avec. Je voulais avoir un petit débat parce qu'on en a pas souvent, comme il n'y a pas vraiment d'experts Première Ligue à part toi, Hugo, à la radio. Je voulais avoir un petit débat sur Berbatov, faire un petit bilan au niveau de lui. Ça a quand même été 38 millions, le transfert le plus gros après Robinho de cet été. 38 millions. Ses stats sont corrects, hein. D'accord, 8 buts en 21 matchs, ça reste correct en Première Ligue. Mais son manque d'efficacité quand même laisse planer le doute dans la tête des supporters. Et quand tu regardes la comparaison par rapport au prix... C'est assez paradoxal. Je sais pas comment penser. Bah, Marvolo avait un petit avis déjà sur le sujet.
Ouais, je te trouve franchement un peu dur parce que Berbatov, on le prend pas. C'est plus un point de fixation devant. ça offre des solutions tactiques parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas ce profil-là. Depuis le départ de Saav, ben voilà quoi, il y avait plus de gars un peu pour prendre les ballons aériens à part Cristiano Ronaldo. Et donc, moi franchement, je trouve que d'accord, le prix est très élevé forcément, mais pour ces 6 premiers mois, c'est franchement pas mal parce que aux 8 buts qu'il marque en championnat, c'est ça, c'est 8 buts en championnat.
Exactement.
Ouais, il faut ajouter, je crois, 5 ou 6 buts en Ligue des Champions aussi.
Oui, c'est vrai, 5 buts.
Donc, après, je sais pas, en coupe et en...
Non, 0 en coupe, il a mis 8 et 5, il en a mis 13, il me semble.
Voilà, donc
oui, ça reste très correct, évidemment, évidemment. Ah, non, mais tu comprends ce que
dans la mesure où on dit que les buteurs, les bons buteurs, c'est 25-30 buts par saison, toutes compétitions confondues.
Oui, voilà, il est dans la moyenne, 13 buts, si tu multiplies ça par 2, à la fin, t'arrives à 26-27, donc. Oui, non, on est d'accord. Mais c'est que par rapport à déjà à l'investissement, c'est vrai que les supporters étaient peut-être en droit d'attendre autre chose. Ou alors, c'est qu'on a mal présenté Berbatov, et comme on l'a aligné. Comme c'est Tevez qui a été relégué sur le banc et Berbatov qui a été aligné, on a peut-être cru qu'on attendait de lui vraiment qu'il mette les ballons au fond. Et finalement, c'est pas ce profil-là que t'essayes de me faire comprendre, Marvolo.
Bah oui, et puis d'ailleurs, je crois qu'il a déjà de meilleurs stats que Tevez l'an passé, donc.
Oui, ça, oui, c'est possible.
Ouais. Et puis, de toute façon, pour ceux qui connaissent Berbatov, qui le connaissent pas, bien sûr, ils vont dire que c'est cher parce que voilà, à ce prix-là, on se dit que c'est un neuf. Un véritable neuf, quoi, plus le renard des surfaces, le Trezeguet, Van Nistelrooy et compagnie. Mais ouais. Non, lui, c'est pas ça. C'est un esthète du ballon. C'est le mec qui va te mettre de belles passes. C'est le mec qui va mettre de beaux contrôles. Je me rappelle plus. J'avais récemment vu un match. Je pense que c'était sur le Boxing Day où à un moment il y a un centre qui arrive très très fuyant et lui, au lieu de la contrôler, au lieu de frapper dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait directement un contrôle orienté et il la donne à Tevez. Franchement, ce genre de geste, c'est franchement pas anodin. Donc pour moi, c'est par rapport au profil qu'avait Manchester, c'était vraiment la pièce manquante, quoi.
Ah oui, c'est sûr que c'est pas un profil à la Inzaghi qui là ne pourra jamais faire une qualité de contrôle pareille, mais qui sera recruté par exemple dans l'optique d'un vrai neuf de pouvoir pousser les ballons au fond. Et c'est vrai que Berbatov n'a pas ce registre-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alic?
Moi, je pense qu'il a eu du temps à s'adapter et puis que actuellement, il est en pleine bourre, quoi. Avant le match de Chelsea,
il a l'entière confiance d'Alex Ferguson.
Bah, il a de quoi l'avoir. Puis en ce moment, il commence à marquer, donc il a fait de laisser le temps. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, Marvolo a tout résumé.
Puis à sa décharge, on peut dire que il est pas non plus la seule personne autour de laquelle est construit le jeu de Manchester, comme l'était un peu l'année dernière avec Tottenham et les Spurs, je pense. L'année dernière, c'était vraiment le joueur devant avec Keane qui sur lequel reposait le jeu. Là, il y a les Cristiano Ronaldo, il y a les Rooney, il y a beaucoup de monde qui peuvent participer aux attaques, beaucoup plus, je veux dire, qu'à Tottenham l'année dernière, et ça doit à mon avis jouer, on le voit un petit peu moins dans le jeu, mais ça n'empêche qu'il est pas moins bon, loin de là.
Et puis même au-delà des stats, sur les derniers matchs, bon, le troisième but, c'est anecdotique contre Chelsea, mais contre Boro, il me semble que c'est lui qui marque le but de la victoire.
C'est ça.
Contre Stoke, et je sais plus contre qui il marque, il fait une passe, la passe à Tevez. Je me rappelle plus trop récemment, il avait fait ça, donc. Au-delà de là, juste des stats froides, il a rapporté des points. Donc,
c'est sûr.
Pour moi, c'est un bon transfert.
Il reste avec sa grande technique et sa grande mobilité. Hein. Franchement, c'est comme tu disais.
Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier.
C'est Berbatov.
Ouais, mais même au-delà par rapport au prix, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est les transferts anglo-anglais en club anglais. C'est toujours très cher. Hein. Faut pas oublier que Carrick, il est arrivé pour 25 millions.
Ouais, c'est vrai.
Oui, je suis pas sûr qu'il les valait vraiment 25. C'est un très bon joueur, mais 25, c'était peut-être trop.
Oui, à l'époque, ouais.
Voilà, oui. On a vu le prix de Robbie Keane aussi, qui est parti pour 20 millions, plus ou moins. Donc, de toute façon, les transferts en club anglais, c'est toujours très élevé. Donc,
C'est sûr, ouais. D'ailleurs, un très très grand professionnel, je voulais souligner aussi Berbatov, qui travaille énormément, il l'a déclaré. Et il a l'entière confiance de ses coéquipiers. Et de son entraîneur. Voilà, je voulais faire un petit débat et un petit résumé sur lui. Pierrot, excuse-moi, tu voulais dire.
Ouais, je voulais rappeler quand même que son prix de 38 millions d'euros, c'est surtout parce que Manchester United a dû renchérir sur Manchester City.
C'est vrai.
Qui a proposé 35.
Oui, mais lui avait émis déjà son, son envie d'aller à Manchester. Donc il fallait juste que Manchester augmente un petit peu le prix. Oui, Leek.
En parlant de City, ben on peut en parler un peu.
Ah bah si tu veux, oui, oui.
Voilà, c'est pour dire que en ce moment sur les transferts, les médias ils sont en train de se gaver, mais un truc de fou. Déjà avec Kaka avec je sais plus 150 millions d'euros. Ensuite on annonce Zarate 25, De Jong 15, ouais. Théo à 15 euros, Materazzi à 8 millions et Archavine à 8 millions quoi. Ça fait plus de 200 millions de transferts. Et après dans le mercato d'été on annonce que Suleiman Al-Fahim mettrait 500 millions dans le mercato quoi.
Ouais.
Donc
je sais pas. Quand même, Marvolo.
Ouais, puis même au-delà de ça, c'est il y a quand même un truc moi qui me
surprend. Les casseroles beaucoup. Qui sont de sortie.
Oui, mais ça venait pas de moi.
Non, t'inquiète pas.
D'accord. Non, mais au-delà, il y a quelque chose. Bon, ça va peut-être moins vous parler, mais moi qui suis un peu le monde arabe, pour vous donner une idée, le père du président, donc c'était Zayd ibn Sultan, ça a toujours été un mec qui
j'adore
était
quand Marvolo dit les noms arabes comme ça.
Ah ben on est
tellement
plein
de poésie quand je dis moi sous les mines hold dame, c'est tellement moins beau.
Non mais voilà, non mais sérieusement, c'est ça, c'est que Zayd ibn Sultan, donc le père du célèbre Mansour.
Il en rajoute en plus.
Non, je veux l'appeler Mansour, le père de Mansour. Voilà. Il faut savoir que ça a toujours été un mec super discret. Donc moi ça me surprend un peu que son fils là, parce que c'est le plus jeune de ses fils, qui est en train de complètement flamber, parce que franchement ça c'est pas trop dans la politique du père. Mais de toute façon, on voit un petit peu ce qui se passe aux Émirats en ce moment, et ils sont en train de tout faire pour que ça devienne un peu le centre du monde, quoi. Donc,
je voyais l'autre fois, il faisait arriver la Sorbonne des.
Ouais, c'est ça, j'avais vu ça aussi. C'était.
La Sorbonne. C'est assez hallucinant comment ils veulent faire transformer, comme tu dis, les Émirats.
Donc à mon avis, c'est loin d'être fini cette histoire-là, et en bien ou en mal, ça, je sais pas. Mais le problème, c'est que. On va avoir non pas de la concurrence déloyale, mais un autre phénomène qui s'appelle de la distension de concurrence, et c'est encore pire. Parce que là, pour le coup, les clubs vont même plus pouvoir réagir.
Oui, c'est sûr. Là. Bah, justement, on en fera, je pense, un sujet, un des gros sujets, une de ces émissions, peut-être une des émissions spéciales avec un autre gros sujet avec, sur comment est en train de révolutionner un peu Manchester City, le football et le marché des transferts. Je pense que ça tiendra à cœur beaucoup de monde dans la radio. Oui, il y a une déclat exclusive de Paolo Maldini, de Hugo, sur Kaka. On sort juste 2 secondes du sujet. Oui, si tu peux nous lire vite fait la déclaration de Maldini.
Je viens de la perdre, justement, comme un petit idiot. Mais j'ai retenu l'essentiel. Il a dit perdre Kaka, ça serait un désastre pour Milan et tout. Et bon, il y a tout le monde qui est contre ce transfert. Ferguson a dit que c'est de la folie, les ultras rival. Ils estiment que Kaka ne se vend pas.
Ouais. Mais ça c'est marrant parce que tout le monde s'occupe de cette affaire-là. Ça, bon, bref, c'est pas le sujet. Bon, range tes casseroles, Dan, parce que ça commence à être affreux là, ces machins-là. Et va faire la vaisselle.
Fabregas a dit une belle chose aussi.
Comment?
Fabregas a dit une belle chose.
Il a dit.
C'est pas en sortant un chéquier qu'on fait une équipe et qu'on gagne des trophées.
Ouais, non, mais d'ailleurs Fabregas aime bien toutes ces déclarations. Ces déclarations.
Ouais, mais en même temps, venant d'un gars qui a pas hésité à lâcher son club formateur pour aller à Arsenal et une offre plus intéressante financièrement, tu vois, ça me laisse un petit peu sceptique.
Ah oui, je cautionne pas ses propos. Tout à fait. Non, mais oui, parce que ça reste.
De toute façon, c'est toujours comme ça dans le foot. C'est tout le monde est là à donner des leçons sur les autres, mais y a personne qui se regarde un peu le nombril. De toute façon, moi je vous le dis, c'est Ce qui est un peu marrant, c'est que ce qui se passe là avec Manchester City, c'est un peu ce que tout le monde disait sur Chelsea. Et maintenant, quand un joueur signe à Chelsea, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait accepté, comme si c'était même plus une anomalie. Donc, à mon avis, d'ici 2 ans, on aura tous en train de dire, en parlant de Manchester City, que c'est normal qu'un tel signe là-bas.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça commence à devenir inquiétant, comme tu dis, Marvin. Donc, merci pour cette petite déclaration.
Merci.
Leek. Donc, juste une petite présentation de ce qui va se passer ce week-end en Première Ligue. Blackburn Newcastle. les retrouvailles de Sam Allardyce et son ancien club Newcastle. C'est un match important pour les deux équipes hein, qui sont concurrents directs pour le maintien. Les Rovers pourront compter sur leur retour de Roque Santa Cruz, qui n'est pas lui apparu dans l'équipe depuis 4 ou 5 matchs, il me semble, en raison d'une blessure. Bolton, Manchester United. En cas de victoire sur la pelouse donc de Bolton samedi, Manchester prendrait pour la première fois la tête du classement en attendant le derby qui se jouera lundi soir entre Liverpool et Everton, j'annoncerai tout à l'heure. L'occasion donc est belle pour les Red Devils, comme tu l'as dit, qui se sont imposés en semaine 1-0 contre Wigan, un but à la première minute de Rooney, match pas vraiment dominé mais bon. Ça reste un match où les joueurs de Manchester aient la tête ailleurs, donc je pense qu'on ne peut pas non plus faire référence à cela. Donc l'occasion est belle pour les Red Devils de reprendre la tête du championnat face à des Trotters en baisse de forme actuellement. En plus, l'équipe de Gary Megson sera privée de Johan Elmander sur ce match, l'ancien Toulousain. Et que dire encore, Chelsea Stoke à Stamford Bridge. Après sa défaite donc à Manchester, Chelsea doit reprendre le cours des choses face au promu Stoke, qui en a fait baver face à Liverpool. Et tout autre qu'une victoire pour les joueurs de Chelsea serait le déclencheur de la crise à mon avis. T'avais un avis sur Chelsea, non, Leek? Non. Je sais pas où est passé Lee. Enfin bon, là on se retrouve plus que moi et Marvolo, j'ai l'impression. Enfin bon, heureusement qu'on arrive vers la fin parce que là.
on a eu énorme. D'ailleurs, on s'excuse parce qu'on a eu énormément et beaucoup trop de soucis techniques qui d'habitude n'ont pas lieu. Mais.
Donc, je vais finir ça rapidement. Donc, Stoke City qui peut compter sur James Beattie, l'illustre. L'illustre joueur qui pourrait faire ses débuts donc sous ses nouvelles couleurs, il a été recruté début janvier. Manchester City contre Wigan. Alors Manchester City qui agite tellement de monde va tomber contre cette belle équipe de Wigan dont je vantais les mérites tout à l'heure. Hormis qu'ils font parler d'eux, Manchester City en ce moment. C'est sûrement pas à cause des résultats sportifs, donc en attendant l'arrivée de toutes les stars, Kaka et peut-être autres, Arshavin et Zarate, comme nous annonçait Leek, faudrait peut-être se repencher un peu sur le championnat et se concentrer sur le rythme quotidien, qui rime avec maintien, on peut le dire, puisque Manchester City sont 15e dans cette première ligue. Face à Wigan, donc bien accroché à cette 7e place, les Citizens n'auront pas d'autre choix que de s'imposer pour s'éloigner un petit peu de la zone rouge. Les deux autres matchs à 16h seront de moins d'importance. Sunderland, Aston Villa. Le match, on va dire, il n'y a pas trop de commentaires à faire sur le match. Evans, qui n'ont pas encore recruté en janvier, tenteront de ramener un bon résultat de Sunderland, mais bon, je pense que ça devrait être assez facile pour cette équipe d'Aston Villa. West Bromwich Albion contre Middlesbrough. Fortuné, donc, qui va faire ses premières apparitions sur West Bromwich, je le dirai juste après dans les transferts. Et est-ce que Albion pourra résoudre ses problèmes offensifs avec l'intermédiaire de d'autres joueurs? Je suis pas sûr. En tout cas, West Bromwich a besoin des 3 points pour espérer encore se sauver. Et une victoire de West Bromwich leur permettrait de rejoindre Middlesbrough au plan comptable. Pour finir le match à 18h30, oui, voilà que je retrouve, ça sera Hull City Arsenal. Arsenal donc qui n'a sûrement pas oublié la défaite du match aller à l'Emirates Stadium face à Hull City. Plus ou moins relancé dans la course au titre, on va dire, les Gunners ne peuvent pas se permettre de rééditer une contre-performance face aux promus. Invaincu depuis 7 matchs quand même, les joueurs d'Arsène Wenger essaieront de confirmer leur bonne forme actuelle. Pour finir, donc dimanche, On aura le droit à West Ham Fulham à l'Upton Park de West Ham, derby londonien, donc pour deux équipes de milieu de tableau qui comptent le même nombre de points au classement. Derby qui ne réussit jamais trop à Fulham, qui n'a pris que 2 points sur 21 lors des 7 dernières rencontres, oui c'est ça que j'ai calculé, entre les deux équipes. 17h, ça sera Tottenham Portsmouth au White Hart Lane. 1h lundi soir. Liverpool Everton, le derby de la Mersey. Pour conclure cette 22e journée de Premier League, le leader Liverpool qui ne sera peut-être plus au moment du coup d'envoi, puisque Manchester a gagné entre-temps samedi, saura ce qui reste à faire. Donc les joueurs de Liverpool sauront ce qui reste à faire pour considérer le leadership, conserver le leadership. Il y avait une petite stat, j'avais vu, ouais, Everton n'ont plus gagné à Anfield depuis 1999. Mais cette saison sont à l'aise un peu à l'extérieur, donc on est en droit d'espérer au moins un résultat nul peut-être pour les joueurs d'Everton. Et lors des 5 derniers matchs avec 4 victoires et un nul, sont vraiment en bonne forme, les joueurs d'Everton sont vraiment en bonne forme et constitueront vraiment un adversaire de poids pour les Reds qui restent sur leur 0-0, je rappelle, à Stoke la semaine dernière. Voilà pour ce qui est de la première ligue. Juste, j'entends Dan qui nous met la musique pour dire que Nzobia serait dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, le latéral ou milieu gauche de Newcastle, mais qui est aussi dans le viseur de comment ça s'appelle, de Arsenal. Jivet qui sera à la relance du côté de Blackburn Rovers et qui a été prêté au Rovers aujourd'hui même, voilà. Newcastle qui veut Ebondo aussi, le latéral toulousain, et donc comme j'avais dit tout à l'heure, Fortuné qui met le cap sur West Bromwich Albion.
Et tu sais qu'il veut rester à Sunderland.
Voilà, exactement. Tu sais qu'il ne veut pas retourner à Marseille.
Je le comprends.
Et Pierrot, il y avait un petit truc, Makoukoula.
Makoukoula près de Tableton pour les 6 prochains mois avec une option d'achat de 5 millions d'euros.
Ok, ok.
Ce soit plus que ce que Benfica l'a acheté.
D'accord, d'accord, très bien, Pierrot. Je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'à tard ce soir avec moi. Il y avait, je vous rappelle, Marvolo. Merci, Marv. Merci à toi, Hugo.
Merci, hola.
Et merci à notre ami Pierrot pour sa partie Liga. Merci Pierrot.
C'est un plaisir.
On va donc rendre l'antenne et vous saluer en vous disant à la semaine prochaine pour une prochaine Europe de Soccer. Bonsoir tout le monde et à la prochaine fois, bonne nuit. Remerciements à Billy, Helvetia, Anne et tous les auditeurs évidemment. Ciao.